Creton.
Salut tout le monde, bon lundi. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Mon nom c'est Yann Marceau, je t'accompagne en compagnie de Pascal CV qui a le plaisir de me retrouver cette semaine.
Salut Pascal. Tu le dis pour moi? Hey. D'un coup que je le dis, c'est pas je vais le dire pour elle.
Salut Yannick. Je t'ai entouré de mauvaises langues. Audrey qui a dit, ben là, je peux pas répondre pour Pascal, donc tu lui demanderas.
Attends un peu, là, qu'est-ce qui s'est passé puis j'ai manqué?
Mon
Dieu qui fait pitié.
Je suis pas Jonathan Roy.
Franchement. Là, t'avais peur que j'ai ce que j'avais pas le goût de te revoir.
Exact.
Ou... Ben oui, puis il m'a dit, c'est ennuyé. Mais je vais lui laisser la parole.
C'est-tu ennuyé? Un peu. J'ai dit un peu.
Je peux pas répondre pour Pascal.
J'avoue que c'est pas Brad Pitt, mais salut Yannick, je suis contente de te retrouver.
Tu fais l'affaire, Yann. Oh,
je fais l'affaire.
Attends, mais ça dépend des jours, là, on va être honnête.
Aujourd'hui.
Ça passe. T'as mis un nouveau coton à thé, on aime ça, nous autres,
Je me sens comme au primaire pour au secondaire, tu sais, quand j'approchais une fille et elle disait... Ouais, tu fais l'affaire.
C'est correct.
Ça va être correct pour les deux prochaines.
Ça sera pas trop gênant, ouais. Là.
T'es entre le correct puis je t'aime mieux comme ami.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est pas des enfants forts, ça.
Ouais. Celle-là, là, je t'aimerais mieux comme ami, je me l'ai jamais fait dire.
T'es chanceux parce qu'à peu près 90% des gars...
Mais pourquoi je me l'ai jamais fait dire?
Tu le disais en premier?
Non. Moi, j'ai toujours attendu que ce soit elle qui vienne me voir. La peur du rejet, Audrey.
C'est la manipulation.
Ben, il y a aussi j'appelle ça aussi un manque de courage.
Un peu.
Pas juste la peur du rejet. Là, mais
c'est un manque de courage, oui. La peur du rejet. Il y en a d'autres qui diraient c'est de j'allais à la pêche et je tirais de la dynamite dans le lac à truite. À un moment donné, ben, je prenais ce qui remontait. Ben,
j'avoue, si la fille, elle ne sent pas désirée non plus parce que t'en as trop fait des lignes, là, je veux dire, c'est pas très, très intéressant d'aller te voir par la suite. Là.
Change de place. C'était le truc qu'on faisait dans le temps.
Quoi?
Ben, on change de bord.
Parce que là, t'es trop connu dans ce bord-là. Il y a un petit bug sur Twitch. En passant, on essaie d'y remédier. Là. Je m'excuse si on n'est pas encore en diffusion. Ouais.
Mais tu changes de bord.
Parce qu'ils t'ont jamais vu dans l'autre bord.
Ben, c'est ça. Tu changes de place. Des fois, j'avais des chums qui montaient à Trois-Rivières.
Oui, j'en connais des amis de même qui faisaient
ça. Mon Dieu que c'est génial.
Il y en a un pour qui ça a fonctionné. T'es en couple maintenant.
Québec à Audrey. Québec est un très grand lit, soit dit en passant.
Je sais, Jérôme 50 en a fait une toune.
Jérôme 50, il parle de ça?
Ben oui, lit double, le très grand lit de Québec, là, vous l'entendez passer à Boulevard 102.
Moi, je mettrais la province. La province est très, très petite.
Des gars et des filles de 50 ans là, qui tombent... c'est pas grave, Audrey. Là. Des gars et des filles de 50 ans qui tombent célibataires, 40, 30. Là. À un moment donné, il faut que tu cherches pour trouver quelqu'un qui n'a pas fréquenté quelqu'un que tu connais, mettons.
Mais là, moi, j'ai connu quelqu'un de la dernière semaine... En passant, je fréquente pas quelqu'un, là, c'est pas là où je m'en vais. Que c'était la première fois que j'entendais parler, que je voyais, puis que j'avais pas d'amis en commun. Puis que je connaissais personne qui le connaissait.
Tu l'as-tu réservé, mettons?
Non, je n'ai pas, mis mon tag dessus, là, comme une vache. J'ai juste été surprise, puis c'est ça, c'est quasiment épeurant.
Ouais, tu l'as marqué au fer rouge?
Non,
t'as écrit CV.
J'ai encore un tag de vache, de bœuf dans ma poche au cas, mais
ouais.
Non, je fais des farces, mais c'est rare, ça, à Québec.
Ouais, Québec est un très, très grand lit, mais c'est la vie. Toi, t'as passé une belle semaine passée? T'as passé un beau week-end?
Oui, la semaine passée, écoute, je me demandais si t'avais le goût d'être en onde. Il y avait tellement d'actualités, beaucoup de choses. Ça brassait beaucoup.
Je préférais vous écouter à la radio. Sérieux, j'ai écouté beaucoup de radio la semaine passée.
Ça tentait pas de relaxer?
J'ai fait
maintenant.
Beaucoup de réseaux. J'avais juste ça à faire. J'étais en Beauce.
Pourquoi t'as pris des vacances?
Parce que j'étais supposé aller visiter soit la France ou soit l'Angleterre ou soit les deux en même temps.
Puis t'es resté en Beauce.
Nous écouter?
Arc!
Voyons, Yann, ça va.
Et où vous écoutez?
Je pensais que t'allais mal, mais pas à ce point-là.
Veux-tu qu'on appelle de l'aide?
Urgente. Hey, un camion Costco d'aide, s'il vous plaît. Là.
Non, mais je l'ai dit, c'est que la mère de mes gars avait 40 ans cette année. Puis avec son ami d'enfance, il avait prévu faire un safari. Puis là, moi, j'avais prévu...
C'était toi ou elle?
C'est ça. Moi, j'avais prévu partir en vacances le 20, mais là, elle a dit... ouais, mais elle dit, nous autres, on prendrait un safari. Fait que là, je dis, OK, c'est beau, vas-y. Je veux dire, c'est 40 ans, safari en Afrique. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui a la chance de vivre ça.
Mais la connaissait, elle savait d'avance, Yannick. Fait que clairement, il y a quelque chose qui a manqué dans ta préparation.
Non, c'était moi qui le savais avant. Mais finalement, j'ai cédé ma place. Puis,
t'as pas voulu travailler?
J'ai passé la semaine avec mes gars. Non, mais ça prend quelqu'un pour s'occuper de mes gars.
Mais ils vont à l'école?
Oui, je sais, mais le matin, ça prend quelqu'un. Puis le soir aussi, ça prend quelqu'un à leur retour à l'école.
Ouais, mais tu peux pas faire ça normalement dans une semaine de travail habituelle?
Non.
Parce que vous vous splittez normalement la job.
Exact.
Mais bref, parce que tes horaires te permettent pas ça?
T'as tout compris.
Ah ouais.
Mais vous rentrez beaucoup dans ma vie personnelle, mesdames.
Ah,
mais
bref, ça bug. Donc,
on s'est ennuyé, Yann.
Fait que j'ai passé toute la semaine passée en Beauce, puis j'avais mon ancienne maison qui me servait de chalet, là.
Arc, t'as mis des grossesses partout puis dans la maison de ta blonde, de ton ex.
J'écoutais des podcasts, j'écoutais la radio, j'écoutais des films.
Est-ce qu'on t'a fait honte?
Je relaxais. Non, 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 j'ai bien ri, là, tu sais. Ton histoire de Jonathan Roy, je t'en parlais tantôt, ça m'avait fait bien rire. C'était cool, c'était cool. C'était... Des semaines relax comme ça, là, des fois, c'est ça, les vraies vacances. Non?
Moi, j'ai de la misère avec ça. J'ai vraiment de la misère à rester à Québec quand je suis en vacances. Je sais pas, j'arrive que je tourne en rond, que je fais du ménage, que je fais de la cuisine. Pis...
Oui, mais parce que t'es chez toi. Là, moi, j'étais pas chez nous.
Oui, ça peut être aidé, ça.
J'étais chez la mère de mes gars, puis j'avais comme rien à faire, puisque tout est préparé d'avance.
Oui, parce que ça, là, disons-le, Yannick avait les kits préparés d'avance,
oui.
Les repas préparés d'avance
faut
avec
les
des
couleurs,
étiquettes.
Faut que les couleurs de mes gars s'agencent quand
avec,
ils s'habillent.
Tu mets la lasagne à combien? Les lunchs étaient faits? Tout était fait.
Oui.
Ça a été du bonheur, finalement.
Oui, 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 vraiment. Ça a été une belle semaine. Fait que j'espère que ça a été relax pour vous autres aussi. Côté météo, aujourd'hui, ça va brasser. Dans certains secteurs de la ville, on me dit que le vent s'est levé. Je ne sais pas où vous êtes actuellement. 418-971-1021, 418-971-1021. Mais on parle de vent... aujourd'hui et ce soir, entre 50 et 80 km/h, de la poudrerie, entre 5 et 10 cm avant, annoncé. Minimum de moins 12 pour ce soir, un maximum de moins 2 pour ce qui est d'aujourd'hui. Actuellement, c'est un moins 3 comme température ressentie. Demain mardi, ce sera de la neige intermittente qui devrait cesser en matinée. Poudrerie par endroit aussi demain matin sur nos routes. Il faudra faire attention. Des températures stables à près de moins 13 degrés. All right. Qu'est-ce qui se passe dans l'actualité? Autre que les sénateurs seront à Québec, les sénateurs d'Ottawa, qui vont jouer deux matchs de calendrier pré-saison 2025 à Québec. Les Devils du New Jersey qui vont être en ville le 28 septembre prochain. Et après ça, ben, deux jours plus tard, c'est le Canadien qui va s'amener à Québec contre les puissants sénateurs d'Ottawa. Je suis content que ça arrive à Québec. Là. Ça va faire du monde dans l'amphithéâtre. Là.
On est-tu encore dans les subventions?
Jusqu'à maintenant, non.
Ah, ça fait la différence dans mon appréciation de cette belle visite-là qui nous attend. C'est sûr qu'on peut parler d'Elon Musk, on peut parler de Trump, on peut parler du fait qu'en fin de semaine, ça a été tout un week-end, en fait, d'incendie un peu partout sur le grand territoire de la ville de Québec. Sinon, ce qui attire l'attention, on a fait un genre de rapport sur le transport scolaire. On dit qu'il y a 1652 victimes depuis 2018 suite à une association des directeurs de police qui ont sorti ce rapport-là où on dit qu'il y a plusieurs centaines de jeunes usagers du transport scolaire qui ont été blessés ou tués au Québec dans les 6 dernières années. Juste en 2023, 320 victimes qui ont été recensées à travers la province. Mais ça fait pas nécessairement une belle jambe hein, pour tout ce qui est automobiliste qui ne ralentissent pas dans les secteurs scolaires. On en parle depuis des années. C'est des problématiques. On a essayé des photoradars aussi qui avaient été installés dans certains secteurs, là, que ça a été temporaire, mais quand même, on voyait une grande hausse et une augmentation de tout ce qui était amende qui était donnée aux gens. Il y a quelque chose, on dirait, qu'on ne saisit pas et où c'est mal fait. Je ne sais pas ce qui se passe. Il n'y a pas encore le constat qui est sorti. On aura tout ça comme information dans les prochaines heures, mais quand même, Yannick, c'est fulgurant de voir un rapport comme celui-là. Là. Il me semble que c'est évident que dans des zones scolaires, on ralentit.
Puis pour la population serait pour qu'on puisse mettre des photoradars dans les zones scolaires, dans les quartiers résidentiels. Je pense que tout le monde serait pour ça, tu sais. Mm-hmm. Plutôt que de mettre ça dans des endroits, des fameuses trappes à tickets. Moi, je me souviens que du temps où je travaillais le soir très tard, l'hiver, mois de janvier, février, on mettait un radar, un Pascal, sur Champlain. Sur le boulevard Champlain. Fait que ouais. Je finissais de travailler, il était minuit et demi. Puis à 1h du matin, sur le boulevard Champlain, écoute, il y avait moi qui passais, plus peut-être 10 véhicules pendant la nuit. Puis il y avait un photoradar qui était là pour pogner les gens qui conduisaient plus vite que 50 km/h. Je veux dire, ça, c'est juste pour ramasser de l'argent pour envoyer au gouvernement. Mais si tu mets ça dans des quartiers résidentiels, si tu mets ça dans les zones scolaires, tout le monde va être pour ça. Puis si les gens sont assez caves pour rouler à 90 km/h dans une zone scolaire de 30, bien, ils vont mériter leur ticket. Là.
Il y a une nouvelle vraiment triste qui fait la une, en fait, de plusieurs quotidiens de notre région ici. C'est un jeune qui a été gravement blessé hier en Beauce. Lui, il était sur un genre de trois skis derrière une motoneige. Puis la motoneige était conduite par un ado. C'est à Saint-Bernard, puis c'est hier soir où c'est arrivé dans le coin du chemin des Gailleuls. C'est un terrain privé. comme bien du monde, là, je veux dire, en fin de semaine, le faisait conduire la motoneige avec son enfant et ou un ado qui conduit une motoneige dans des secteurs un petit peu plus ruraux, là, dans les municipalités, on voit ça. On le sait que c'est pas nécessairement quelque chose qui est encouragé au niveau sécurité, mais dans un virage, le trois-ski aurait frappé un arbre de plein fouet, puis il y avait l'enfant sur le trois-ski. Donc, son état a été stabilisé à l'hôpital. Sa vie est plus en danger, mais il était vraiment blessé. Puis le conducteur de la motoneige, l'adolescent, lui, il n'a pas été blessé. Il a 16 ans, mais ça ramène toujours le genre de débat dans l'actualité. Parlant d'ados, il y en a une majorité qui sera en faveur de l'interdiction complète du cellulaire à l'école. Je suis extrêmement surprise par ça, parce que je me dis... Peut-être qu'on est arrivé à croiser des chemins où des ados se disent « Mon Dieu, on n'a pas connu le monde avant qu'il y ait des technologies un peu partout puis qui nous coupent de nos relations sociales. Mmh. » Est-ce que c'est le constat qu'on a fait du côté des adolescents pour dire qu'on est en faveur d'interdiction complète d'un cellulaire, même pendant les pauses puis même pendant l'heure du dîner? Ça m'a frappée. C'est une tournée qui a été réalisée dans une vingtaine d'écoles. Fait que pas juste deux, trois élèves qui ont ça. Une vingtaine d'écoles durant l'automne. On a rencontré environ 500 élèves. Et ils le disaient, ils veulent être encadrés au niveau de ce qui est de l'utilisation du téléphone cellulaire.
Ils sont plus éveillés qu'on le pense, nos enfants, en majorité. Puis c'est une très bonne nouvelle qu'on lit dans le Soleil de ce matin. Puis en fin de semaine, j'ai entendu ça chez nous.
Pour vrai?
Les gars, ils sont tombés sur un jeu de cartes qu'ils avaient eu à Noël, puis ils n'avaient jamais joué à ce jeu-là. Ils ont décidé de le sortir. La plus vieille, la préfab, est à la maison. Puis elle a dit, quand je dis la plus vieille, elle était plus vieille qu'eux autres, là, elle a un an de plus que Josh, fait qu'elle a 12 ans,
okay.
Elle était avec Josh puis Isaac, puis elle a dit « Ça fait du bien hein, de pas jouer avec notre cellulaire, puis de découvrir autre chose, puis de jaser. » Puis les gars ont acquiescé à ce qu'elle venait de dire. Tu sais, les filles sont tout le temps un peu plus éveillées là, à pareil âge, là. Elles sont tout le temps un peu plus matures que les garçons. Puis les gars ont dit « Oui, effectivement, ça fait du bien de sortir de nos cellulaires puis de nos jeux vidéo. » Tu sais, ils ne voulaient pas aller dehors en fin de semaine. Il y avait des matchs de hockey pas pire aussi. Fait que je les ai laissés en dedans toute la gang.
Mais ça a seulement été, c'est ça, si on est rendu à se croiser des chemins-là. Ouais. Parce que nous autres, c'était l'éveil, mettons, des réseaux sociaux, des cellulaires. J'ai eu un secondaire, une portion de secondaire sans sel. Puis la portion de secondaire où certains élèves commencent à en avoir des amis, ont le premier BlackBerry Rose, mais tu sais, t'envoies un texto puis ça te coûte 15 cents du texto. Il n'y avait pas encore de forfait, là. Puis on était bien excités, sauf quand notre ami Sean nous envoyait un point d'interrogation, ça coûtait cher du texto. Parce que tu payais en recevant, puis tu payais en envoyant dans le temps.
Ouais, je me rappelle pas. Moi, j'ai eu ça tard, les téléphones cellulaires. Tu connais-tu Matthew Fogery?
Maintenant, oui.
Matthew Fogery, c'est le cauchemar de toute personne qui suspecte de se faire filmer quand ils sont dans des endroits publics mais privés,
ouais.
C'est-à-dire des toilettes pour femmes ou toilettes pour hommes.
Des douches.
Matthew Fogery se procure des mini-caméras sur Amazon, des mini-caméras qui peuvent être au bout d'une canne, qui peuvent être au bout d'un crayon. C'est un gars qui trippe sur ce genre d'appareil-là. Puis lui, ben, ce qu'il faisait, c'est qu'il se ramassait une multitude d'images, puis il les diffusait. Il les diffusait sur Internet. C'est drôle parce qu'en fin de semaine, j'ai écouté un film qui était sensiblement pareil. Là. C'était un film d'horreur. Je ne me rappelle pas du titre, mais c'est deux couples dont... c'est deux couples qui s'en vont dans un chalet, genre de location Airbnb. Il y a un monsieur qui vient les accueillir, qui a de l'air un peu louche. Là, finalement, ils font comme un échange de couple, là, mais c'était pas... c'était pas...
C'est bien compliqué, ton film.
Les deux autres conjoints n'étaient pas au courant qu'il y avait un échange de couple, mais tout ça avait été filmé dans la douche. Puis là, ben, le gars, lendemain...
Finalement, c'est des couples qui sont ensemble, puis là-dedans, il y en a deux qui se trompent, parfait.
Exact.
Ils sont filmés pendant qu'ils trompent leur conjoint.
Dans la douche, mais ils se sont aperçus qu'ils étaient filmés pendant qu'ils...
Ils l'ont vu, eux,
pendant qu'ils faisaient l'amour dans la douche. Puis là, ça se transforme en film d'horreur. Mais tout le monde y a déjà pensé. Là. Quand tu vas dans un motel ou quand tu vas dans un hôtel, dans un resort au Mexique, tout le monde y a déjà pensé. Hey, y a-t-il une caméra là, dans cette trappe de ventilation-là? Les cadrans.
Moi, à un moment donné, il fallait que j'arrête de regarder ces affaires-là parce qu'ils montraient, il y a des vidéos des fois sur les réseaux sociaux,
ouais.
Ça te montre partout où ça peut être caché. Là, je me dis, c'est le fun pour nous autres, on peut essayer de s'en prémunir, mais en même temps, ça paraît-tu vraiment? Versus aussi, c'est épouvantable qu'on ait des vidéos pour apprendre à cacher des caméras dans des endroits où on s'attend pas à être filmé. Là. Puis tu sais, l'hôtel peut avoir rien à voir avec tout ça aussi. Rappelle-toi la journaliste qui a été filmée à son insu dans une chambre d'hôtel aux États-Unis il y a quelques années. Mais elle, c'était un client qui était passé avant puis qui avait décidé de faire des rénovations, lui, dans cet hôtel-là, puis qui avait capté des images de clients de l'hôtel. Fait que l'hôtel, c'est pas, là, tu sais, la femme de ménage, l'homme de ménage, de maintenance,
ouais.
Qui vont laver la douche. Si c'est bien fait, tu le sais pas.
Une caméra dissimulée dans un miroir?
Oui, ça, ça existe.
Un porte-savon où il y a une petite caméra. Tu sais, c'est toutes ces genres.
Les détecteurs incendie, ouais. Maintenant, il y en a. Mais tu sais, le gars dont tu parles, là, le gars de la Naudière, là, le voyeur de la Naudière, il l'appelle comme ça dans le texte, là, stylo espion. Stylo espion. Le gars, il a pas l'air d'un richissime homme d'affaires qui a fait une cagnotte puis qui peut se payer des affaires que personne ne pourra se payer. Là. Je sais pas combien ça coûte, là, mais je vais le taper. Tiens, stylo espion.
Ben, va sur Amazon, mini caméra, puis tu vas en avoir.
Ça, c'est tellement pas cher. Vas-tu mon stylo espion, là?
Oui.
49,99. Il y en a un autre à 147. Il doit être un petit peu plus performant, lui. Une mini caméra de poche HD, tiens, faire du, t'sais, du gros enregistrement de qualité, là. 43,24. Dans plein de magasins que vous connaissez, vous pouvez aller d'ici 30 minutes.
Stylo caméra cachée, 49,99 sur Amazon. Il y en a plein, mais lui, Matthew Foggery, s'est procuré toutes ces images-là. On dit qu'il filmait des gens pendant qu'il était en train d'uriner. On aurait trouvé chez lui 329 fichiers de voyeurisme, 37 fichiers animés, 279 photos, 15 vidéos, 38 captures d'écran et 71 fichiers graphiques. C'est un gars qui se motivait là, avec, avec ces images-là.
Ça me crée beaucoup de malaise parce que je me dis, à un moment, est-ce qu'on va être rendu complètement déconnecté de nos propres corps parce qu'on va savoir qu'on n'est plus en sécurité sur notre intimité personnelle? Tu comprends ce que je veux dire? Mettons, dans 20, 30, 40 ans, par l'accessibilité que plein de gens, qui soient des malfrats ou pas, ont pour nous filmer, est-ce qu'on va en arriver à être déconnecté de notre corps au même titre, mettons, que notre couleur de cheveux ou autre, parce qu'on n'aura plus le choix?
Ouais.
Parce qu'on n'aura pas la certitude ou encore... La possibilité d'avoir une intimité physique.
Colas qui me dit, moi, je n'ai pas de trouble, vous pouvez cacher des caméras où vous voulez, c'est vous autres les pires si vous voulez voir ça.
Mais tu sais, il y a des gens qui font de l'argent sur le dos. Ouais. On se demande pourquoi ils prennent des vidéos là, de monde qui urine, ça donne quoi? Je sais pas si son plaisir personnel est assouvi comme ça, mais il y en a qui peuvent faire de l'argent. Tout ce qui est sexuel, il y a une déviance des fois. Il y a du monde qui tripe ses pieds. Il y en a qui tripe sur des choses pires que ça. Là. Peut-être que... Tu réussis à faire de l'argent sur le web avec des caméras cachées.
Plein,
ouais, j'aime pas ça que tu m'aies mis ça dans le visage. Peux-tu changer?
Des caméras cachées où les gens sont dans des hôtels puis ils se font filmer.
T'as tapé ça en 4 secondes, t'as plein de vidéos. Là.
Exact.
Puis les gens font de l'argent, ce que je t'ai dit. Là-dessus, c'est une épouvante.
T'as-tu déjà eu un miroir qui
non,
te montrait...
pas avec une caméra.
toi, pendant que t'étais aux toilettes? Au Cosmos, sur Laurier,
ouais.
Quand ça l'a ouvert, dans le cabinet de toilette des hommes, j'imagine que c'était la même chose du côté des femmes, là. Mais si tu t'assoyais sur le banc, tu avais l'image de toi-même assis sur le banc.
OK.
Écoute, il y a
ça
rien
ça sert à quoi, mettons?
Je sais pas. Ben, j'imagine que les filles se maquillaient.
C'était tout... Oui, mais tout en long. T'as pas besoin de te maquiller les ongles d'orteil, d'après moi.
C'était un miroir très design, là, mm-hmm. Mais tu fermais la porte, tu t'assoyais, tu faisais ce que t'avais à faire, puis tu te regardais en même temps.
C'était sûrement pas pour inciter les gens à aller commettre des actes de grossière indécence dans les salles de bain.
Ça, tu vois, j'y ai jamais pensé.
Je peux pas croire qu'un restaurant souhaite ça.
Ben non. Mais la dernière des images que tu veux, c'est celle-là de toi. Puis tu veux encore moins voir
cette
image-là de toi sur les réseaux sociaux.
Oui, ça, c'est ça.
Les sites porno. Ouais. Fait que lui, on lui a donné combien de temps? 30 mois de pénitencier.
Pas d'empathie, on a dit, pour cet homme-là.
Ben, lui,
j'en avais pas non plus.
Lui, il n'en a pas non plus.
Non, c'est ça le point.
Une fois libre, on dit que Fogarty ne pourra pas se trouver à de nombreux endroits, ne pourra pas être en contact avec des jeunes. Il va être inscrit aussi au registre des délinquants sexuels pour 2 décennies. Mais c'est-tu écrit dans sa face? Moi, j'ai un gauge à personne fuckée. Là. C'est un peu écrit dans sa face.
Moi, je me prononce pas sur le physique des gens.
Non, mais... Je veux
dire, parce que moi, tu me vois bien des affaires dans ma face. Fait que ça me tenterait pas d'être parmi ces victimes-là.
Lui, il se promène aux abords d'une garderie, t'appelles la police.
La nique.
Il se passe de quoi, là? 11h53, Denis
lui
Gravel.
Lui et tous les autres louches sont aux abords d'une garderie, on prend pas de chance.
Denis Gravel s'en vient pour le pit stop vers les entours de midi. Midi 30, notre chum Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables va être là. On va parler de la Fédération canadienne des contribuables qui s'en vont en cours contre l'impôt sur le gain en capital. Il y a une conférence qui a eu lieu ce matin à Ottawa, donc on va en parler avec Nick. David Chabot,
oui.
L'excellent David Chabot qui va être avec nous et le chum Jeff Fortin qui va être là pour nous parler d'une conférence de presse qui court s'ouvre ce matin. Et juste vous rappeler, défaite de 4-3 en prolongation samedi face aux Devils du New Jersey pour ce qui est du Canadien. 40 arrêts pour Jacob Dobesch dans sa première défaite en carrière dans la Ligue nationale de hockey. C'est H qui reçoit les Jets de Winnipeg à Montréal demain soir. Et sinon, ben, on connaît finalement quelles seront les équipes au Super Bowl.
Oui, grosse fin de semaine de foot. Là.
Petite déception de ma part puisque je voyais les Commanders. Je sais que les Commanders sont un peu 2 ans d'avance sur la reconstruction.
Ouais. Mais déjà qu'ils ont joué le 25 février, janvier, tu devrais être content. Là.
Mais c'est tout un club. Puis se sont fait battre 55-23 par les Eagles qui seront au Super Bowl. Et de l'autre côté, Pat Mahomes et ses Chiefs ont réussi à battre les Bills. Et là, il y a encore de la grosse controverse au sujet des décisions des arbitres sur le terrain. On en parlera avec Jeff tantôt vers les entours de 13h. Mais go Chiefs, go! Les Chiefs qui devraient gagner le Super Bowl contre les Eagles. Toi, ta gageure?
Ben, j'aimerais bien que les Eagles gagnent. Parce que Pat Mahomes, je reconnais tout son talent, mais je sais pas pourquoi, au personnel, il me titille. Puis peut-être que ça commençait avec son frère.
Je pense que c'est sa confiance en lui.
Non.
Non?
Non, parce que je le trouve pas déplacé. Son frère m'a beaucoup gossé. Je sais pas si c'est par lien d'appartenance. Là.
Peut-être. 11h55, on vient.
Marceau, le mi-. Oh, le pit stop.
Yes, mon homme!
Avec Denis Gravel et Annick Marceau, on refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le pit stop avec Gravel et Marceau.
Et c'est reparti pour une autre semaine avec le Pit Stop. Denis Gravel qui est en studio, qui a fait vivre de grandes émotions à une des grandes dames de Boulevard 102.1, Audrey Pinchot, qui a rencontré la semaine dernière Jonathan Roy. De voir ça sur les réseaux sociaux, je braillais, Denis. La voir te gueuler après. En disant, Denis, fais pas ça! Mais non! Mais non!
Pour ceux qui l'ont peut-être entendu, la vidéo vaut vraiment le détour. Là, c'est disponible sur nos réseaux sociaux depuis une couple de jours. Un beau moment. Un beau moment.
Ça dépend
un beau
pour moment. Qui, je pense.
Ça me rappelait comment on était au secondaire.
Ouais.
Tu sais, quand quelqu'un avait un intérêt pour quelqu'un d'autre, puis là, t'as un
Je vais aller dire. Je vais aller dire. Non, non, non. Non. Ouais.
J'étais nostalgique de ça. Ça me faisait penser à ça.
Une chance qu'elle a eu une toune, parce que sans ça, probablement qu'elle m'aurait arraché la tête.
Ah ouais.
Ouais, ça a bien fait que Jonathan il fasse une
petite chanson.
Mais
toi, là, tu aurais arraché la tête en sens contraire.
Sûrement.
Moi, je pense que oui, mais vraiment, là. Ouais. Je pense qu'il y aurait quelque chose que ça serait passé.
C'était drôle.
C'est gênant parce que là, après, mettons qu'elle souhaite avoir une touch avec, là,
ouais.
Dans le futur. Mettons que, regarde, on est dans une lubie, on s'invente une histoire.
Bon, salut, Tichum.
C'est ça. C'est, mettons que ça finit, ça, cette histoire-là. Puis là, elle se dit, hey, d'un coup, je m'essaierai, moi, sur le beau Jonathan.
Ouais.
OK? Ben, il va se rappeler d'elle comme une espèce de groupie sans génie.
Tu penses?
Ben, non. Les gars.
Mais non, c'est un beau moment. Il a fait une chanson pour un public d'une personne.
Oui, c'est ça, essayez-vous.
Et ce public était conquis, aux larmes.
Ah bon, yeah.
C'était de toute beauté.
Non, bref, ça a été un super de beau moment que vous nous avez présenté la semaine dernière. Ouais. Hey, je veux ça va être raide un peu. Là. On va commencer avec Donald Trump, qui continue de faire des siennes aux États-Unis, qui a commencé sa fameuse déportation des immigrants illégaux.
Tout le monde dehors.
Qui ont décidé de prendre les illégaux colombiens, d'embarquer ça dans un avion militaire américain, puis d'aller porter ça directement en Colombie. L'avion se serait rendu et la Colombie de dire « Non, non, nous autres, on vous permet pas d'atterrir, vous retournez aux États-Unis. »
On reprend pas ça, vous avez pas la facture.
Donc, l'avion est revenu en sol américain. Donald Trump a été mis au courant. Il a dit « Parfait, ça va être un 25% pour ce qui est des importations puis des exportations. Et dans une semaine, ça va être 50%. » Et là, la Colombie a dit « Ouais, OK.
Ah, c'est bon, on va y prendre.
On va y reprendre. Qu'on le veuille ou non, là, il est pro-américain. Make America great again. America first. Lui, il tient jusqu'au bout.
Ouais. C'est un jeu de gros bras que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu en Amérique du Nord. Reste à voir qui, le premier, va pogner les mouches puis jusqu'où on va aller là-dedans. Parce que, tu sais, on en a parlé à quelques reprises ensemble. Faut pas... surestimer le poids qu'on pense avoir. Là, bravo à tous ceux qui ont commencé leur boycott là, pour faire mal aux États-Unis. Je comprends que vous voulez vous donner un peu d'importance. Puis c'est correct d'y aller selon ses convictions puis tout, mais pensez pas avoir un impact, là, je veux dire.
Mais tu sais quoi? T'as raison. C'est correct d'y aller selon ses convictions.
Absolument.
Mais moi, je vous surveille.
Tu veux dire?
Ben, si tu me dis, moi, Yann, ce que Donald Trump fait aux États-Unis, je suis contre ça. Mm. Fait que je vais plus aux États-Unis. C'est terminé Netflix. Tous les produits américains, je boycotte ça. Je ne bois plus de jus d'orange.
Et que c'est de l'ouvrage.
Si tu me dis ça, je te dis, OK, parfait, tu as des convictions. Mais je te surveille parce que je sais que tu vas tricher.
Ouais.
Ouais. Comme tous les artistes montréalais qui mentionnent ça actuellement, on va les surveiller. Vous allez voir, dans 6 mois, tout ça va être oublié. Ces gens-là vont voyager en oubliant qu'ils étaient embarqués sur la fameuse vague de « Oui, oui, on va boycotter nous autres aussi, mais parce qu'on vous surveille. »
Mais tu sais, c'est vrai que, écoute, si t'as la conviction, puis que tu fais le statement, puis que tu décides des choses, moi, j'ai des petites convictions de rien du tout. J'ai la conviction que le bye-bye, c'est plate. Fait que je l'écoute plus. Ça fait plus partie de ma vie. Puis je me dis, ben si tout le monde, à un moment donné, fait la même chose, il n'y en aura plus de bye-bye, puis ils vont penser à autre chose. J'ai la conviction que Tout le monde en parle est une des émissions les plus dolles à la télévision. Je l'écoute pas. Le dimanche soir, je m'en passe. Je m'en sers pas non plus. Quand je fais de la radio, je fais comme si ça n'existait pas. Ça fait plus partie de mon... Mais ça,
mais
c'est
tu prônes ce que tu dis, Denis.
Oui.
Ça, c'est respectable.
C'est des petits contrats de rien du tout. C'est juste que même si t'as des convictions énormes puis que t'es convaincu que tu vas y arriver, je veux dire... On respire l'Amérique, qu'on le veuille ou non, là, je veux dire. Commencer à faire le ménage. Je regardais la liste des résolutions tantôt, là. Enlever Google, Instagram, Facebook puis Netflix la même journée, là. Faut que je recommence à... Faut que je retrouve d'autres façons de travailler, là. Regarde, bravo à ceux qui vont le faire. Il y en a qui ont besoin d'être dans photo, j'imagine.
Exactement.
Mais en même temps,
ce qui est dépeint là, il y en a qui vont avoir cette conviction-là qui est un petit peu extrême, mais il y en a d'autres qui vont faire « Ah, ben moi, c'est contre la personnalité politique de Donald Trump, c'est contre ses applications de politique. Mais je sais qu'il y a un deuxième côté aux États-Unis, puis ces gens-là n'ont pas nécessairement voté pour lui. Est-ce que je vais commencer à dépeindre les États-Unis comme étant un cheval de malheur? Non. Moi, je vais continuer de voyager.
Il y a moitié du monde qui n'ont pas voté pour lui.
Mais je vais assurément consommer, je vais tenter de continuer à avoir un genre de vision consommée canadien, québécois, de plus. Je vais continuer de débattre par rapport à Donald Trump. C'est pas mon homme pour plusieurs raisons, mais je commencerai pas dans l'extrême, cependant.
Ben, je vais comparer ça à quelqu'un qui est végétalien parce qu'il veut pas qu'on tue des animaux. OK? Bravo! Super de belles convictions. Pense pas que ça va changer la chaîne, par exemple. Pense pas que ça va changer la chaîne alimentaire. Bravo si tu le fais pour tes convictions.
Exact.
Mais il y a encore des cochons qui vont se faire tuer à l'usine parce qu'il y a bien du monde qui mange de la saucisse hot dog.
Mais tu sais, là, je regarde. Un que je vais surveiller, là, c'est le journaliste Nicolas Bérubé de La Presse. Là, lui qui dit, si vous voulez...
C'est lui, là, les 9 règlements là, pour boycotter les États-Unis.
Désabonnez-vous de Netflix. Parfait, on va te surveiller. Boycotter Costco et Walmart. Ben oui. Moi, je vais m'empêcher d'aller mettre de l'essence au Costco moins cher parce que je veux justement signaler à Donald Trump que je suis fâché contre lui. C'est non. Je vais continuer d'aller au Costco.
Je boycottais déjà Costco parce que le monde m'énerve là, mais, et jaillit le processus, là, mais ça n'a rien à voir avec l'anti-américanisme.
Ne pas voyager aux États-Unis.
Ouais. C'est tannant, hein? Cadeau de Noël à ma blonde, c'est d'aller voir Ghost à Boston cet été. Je t'annonce que le voyage reste là, là.
Mais si tu dis, OK, parfait, moi, pendant 4 ans, j'y vais pas, puis tu le fais pas, j'ai pas de trouble avec ça. Mais si tu dis, pour être dans photo, hey, boycotter les États-Unis, allez plus là, puis dans 6 mois, je te pogne, puis tu y vas, c'est là que ça va pas.
On est encore en janvier, c'est le mois des résolutions. On s'en reparlera au mois de mars. T'as-tu réussi? Tu vas-tu encore au gymnase? T'as-tu perdu 10 livres? T'as-tu recommencé à manger de la poutine? Puis t'as-tu recommencé à aller sur Google?
Faut juste pas que ça empêche des discussions, par exemple, parce que dans les deux cas, les extrêmes, mettons, à gauche et à droite, puis je te parle pas sur l'échiquier politique dans ce cas-ci, vont encore s'affronter, mais il y a la masse critique du centre. Et là, je parle pas de politique, je parle de ceux qui ont peut-être des nuances appliquées ou encore des revendications de questionnement et autres. Moi, je veux dire, Elon Musk, est-ce un salut nazi ou est-ce c'en est pas un ou peu importe? J'ai pas envie d'avoir ce débat-là. Par contre, j'ai envie d'émettre un commentaire qui est, si c'en était pas un, dis-le. Arrête ça tout de suite.
Ben, c'est ce qu'il a mentionné sur son
Twitter. Dis-le. Et l'affaire de prendre des vidéos de gens qui ne faisaient pas un salut nazi quand tu regardes la vidéo au complet.
Tu parles des photos, toi.
Des photos, justement, qui ont été prises dans des vidéos. Puis là, tu vois justement c'est quoi les vidéos. Ça me dérange le fait qu'il ait réitéré que l'Allemagne doit être meilleure à nouveau puis qu'il est d'extrême droite allemande. Il faut quand même le dire.
Mais ce qui me dérange dans tous ces débats-là, c'est que... Tous ceux qui pensent qu'ils ont fait un salut nazi, c'est les gens qui n'aiment pas Elon Musk. et les gens qui pensent pas qu'il a fait un salut nazi, c'est les gens qui aiment Elon
les
Musk.
Les extrêmes.
Je vais faire un comparatif avec quand Zdeno Chara a blessé Max Pacioretty en l'envoyant direct sur le poteau de la baie vitrée, là. Tu sais, les gens qui disaient « Impossible que Chara ait voulu faire ça. »
Il y en a qui ont applaudi, puis il y en a qui ont appelé la police.
Oui, bien, c'est la différence entre un partisan du Canadien mais un partisan des Bruins. Mais ça, c'est pas un débat. C'est juste, c'est de la partisanerie pure. Ouais. Puis on est rendu de même. Puis c'est plate parce que le débat en tant que tel, il n'existe plus. Tu fais juste prendre pour ton équipe puis dénoncer ce que l'autre équipe a fait.
Sans
c'est un peu infantile.
Toujours selon la presse, il faudrait cesser d'acheter des iPhones.
Bon, moi, tout va bien.
Faudrait cesser d'utiliser Facebook et Instagram.
OK, ouais.
Faudrait boycotter Tesla. Ils passent beaucoup leurs messages, la presse. Hein. Cesser d'acheter de la bière américaine.
Ouais. Mais c'est ce qui est drôle, c'est que le gars qui fait la liste...
Boycotter Google.
Ben oui, c'est ça. Y a-tu réussi à faire ce texte-là en boycottant Google? Je suis pas sûr. Le gars de la presse, il dit « Moi, je suis resté aux États-Unis. » Puis, dans le fond, excusez-moi le terme, mais il se calisse de nous autres. Et le parallèle qu'il fait, il dit « Les Américains pensent au Canada comme au Canada, mettons, on pense à l'Islande, là, pas une fois par année. » Fait que toute cette liste de gestes-là, on l'a fait pour absolument rien d'autre que donner une image ou...
Mais ça aide-tu un boycott aussi?
Aucun impact.
Je pense qu'il faut quand même faire attention parce qu'il y a beaucoup d'emplois là-dedans, des gens d'ici, des familles d'ici. Quelqu'un souligne qu'effectivement, il y a des produits québécois au Costco.
Ben oui,
il y a,
au Walmart aussi.
Il y a des gens qui n'auront pas la possibilité de boycotter.
Chez Amazon
mais
aussi.
Je pense que c'est juste de s'ouvrir les yeux sur la consommation. Peut-être qu'on peut avoir un œil plus vigilant sur certaines choses, mais est-ce que le boycott a déjà aidé à quelque chose?
Les gens qui viennent me livrer les colis que j'achète, c'est des Québécois. Là.
Ben oui.
C'est pas des Américains.
Non.
Mais c'est particulier ce qui se passe. Puis j'espère juste que ça va se replacer puis que les gens vont continuer à se parler plutôt que se déchirer. La semaine passée, j'étais en vacances, je regardais ça. Bon, je vais vous dire des fois que j'aime ça mettre le feu aussi ces réseaux sociaux.
Ah, oh, moi, tu m'as fait tuer, là. J'étais tellement contente que ce soit pas là. Je vais être très honnête, là, un matin, je pense que j'ai fait de l'anxiété que tu reviennes.
Mais c'est une game de hockey qui joue ben dessus oui.
Moi, je boycotterais le compte à Yann une fois de temps en temps, le compte Facebook.
Mais annoncer un boycott, c'est comme aller à l'aréna puis mettre le chandail de son équipe préférée pour moi. Là, ça n'a pas un gros impact sur l'issue du match. Là,
ils disent cessez aussi d'acheter du jus d'orange.
Ouais.
Moi, le jus d'orange à 10$, là, j'ai de la misère à l'acheter. On dit, franchement, que ça fait longtemps que je l'ai boycotté.
C'est ça, on l'a fait pour d'autres raisons.
Quand je vais ailleurs et il y en a, j'en bois.
C'était ça, François Legault, quand il ne l'a pas pris un matin? C'était son
point. Quand il y en a ailleurs, je pars avec le 2 litres.
Mais tout ça pour dire que Donald Trump, ça va être un mandat de 4 ans hallucinant.
Oui.
Pis,
c'est le moins qu'on puisse dire.
Puis il va y avoir des nouvelles avec Donald Trump. La télé va bien fonctionner avec Donald Trump. Les services de diffusion de nouvelles, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça va bien aller avec Donald Trump. Avec Biden, il n'y avait rien à dire, jamais. Là.
Ouais, tout devient spectaculaire. Puis en même temps, c'est de voir quand est-ce qu'on commence à briser de la vaisselle pour vrai. Là. Parce que là, à date, c'est des paroles. Mais est-ce qu'on rentre vraiment en guerre tarifaire puis en guerre commerciale avec les États-Unis? Est-ce que tout ce que les États-Unis vont vouloir imposer, je comprends America First, mais ça va-tu être à faire du chantage économique complètement illogique, comme on a commencé à le faire pour qu'un avion rempli de Colombiens s'en retourne en Colombie, finalement?
Des Colombiens illégaux, là, c'est des gens... C'est, parce que le président colombien disait « Ouais, mais ces gens-là, c'est pas des criminels. Ben, » Excuse-moi, c'est à partir du moment où tu franchis une frontière,
parce qu'ils ont pas d'affaires
tu te déclares pas, c'est un geste criminel, criminel, t'as pas d'affaires là. Puis à New York, ce qu'ils mentionnaient, c'est qu'ils prendront pas femme de chambre, là. Ils vont prendre le gars qui traîne dans les bars, qui vend de la dope. Mm. C'est lui qu'ils vont identifier, c'est lui qui va lui demander s'il a sa citoyenneté. Il l'a pas, ils vont l'embarquer dans l'avion, ils vont dire « tu t'en vas ». La fameuse femme de chambre là, qui est là depuis 8 ans puis travaille en dessous de la table, c'est pas elle qui va se faire déporter.
Puis « America first », ben nous autres, on répond en disant « Canada first ». C'est pas une guerre qu'on peut gagner. On peut bien essayer, là, mais ça va se terminer avec de la négociation. On n'a pas le choix. Puis à la fin de l'année, bien, si on veut vraiment regarder le verre à moitié plein, nous autres, au Canada, on va avoir trouvé nos leaders des prochaines années. On va trouver qui fait pas le poids aussi, là, mais je suis convaincu qu'il y a des politiciens qui vont réussir à s'imposer dans cette négociation-là. Donald Trump a bien des défauts, mais il a forcé tout le monde à réfléchir puis à réagir, t'sais.
Êtes-vous satisfait du travail du gouvernement du Québec dirigé par François Legault de la Coalition Avenir Québec? C'est un sondage qui paraît ce matin dans Le Soleil.
Ça, c'était une question que tu me posais. La réponse est non.
Plutôt insatisfait, 33
%. Ouais.
Très insatisfait, 28 %.
OK.
Fait que là, on est à plus de 50 % d'insatisfaits.
C'est bien mérité.
Les gens qui sont satisfaits de François Legault, 28 %. Très satisfaits, 4 %. Denis, c'est une catastrophe, la Coalition Avenir Québec à Québec.
Je trouve que c'est encore trop. Je vois pas ce que ce gouvernement-là a fait pour nous autres dans la dernière année, dans les dernières années, à part changer d'idée deux, trois fois sur les projets les plus importants pour l'avenir de la région puis l'avenir de la ville. Combien sont satisfaits de François Legault?
Très satisfaits, 4 %. Plutôt satisfaits, 28.
Pouvez-vous m'écrire 5 lignes? Ouais, c'est deux phrases. Pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce que ce gouvernement-là a fait pour que vous soyez satisfait de ce gouvernement-là, mettons, dans la dernière année, là, en 2024? Ça me rentre pas dans la tête.
C'est peut-être les plus vieux souverainistes qui considèrent que le panier de services qu'on a, ça leur suffit. Puis, tu sais, ils écoutent beaucoup la télé, là, ils écoutent beaucoup TVA, on se le cachera pas. TVA est très, très rassurant envers François Legault, envers le Parti québécois aussi, envers PSPP. Fait que chez les plus vieux, tu vas toujours avoir un vote là, souverainiste, là, un vieux fonds de souverainisme syndical aussi, dans le 28 %. Mais moi, c'est le plus de 60 % des gens de Québec qui sont insatisfaits envers François Legault, alors qu'il veut amener un tramway, alors qu'il veut amener un troisième lien. Il n'y a plus rien qui passe avec François Legault ici. Puis Geneviève Guilbeault, encore à ce jour, je n'ai pas été vérifié, mais la semaine passée, j'ai été vérifié. S'il y avait des élections demain matin, elle perd son comté. La vice-première ministre du Québec perd son comté, alors que s'il y en a une qui a de l'air à travailler pour sauver ses fesses, là, c'est bien elle ces temps-ci.
Oui, mais elle n'a pas bien paru dans la dernière année. Puis encore vendredi, le bougonnage avec le ministre Duclos du fédéral, on dirait que ces gens-là font exprès pour mal paraître, ou à tout le moins font exprès pour que les dossiers avancent pas. Puis moi, c'est ce que je prétends depuis le début. Le gouvernement François Legault a aucune intention de faire un troisième lien. Il a aucune intention de faire avancer le projet de tramway. On va saisir toutes les opportunités pour réussir à s'en laver les mains puis avoir une maudite... Ça pogne au Québec. Ah, on voulait faire un tramway, mais c'est de la faute au Canada, Yannick. Hein? Le fédéral nous donne pas l'argent que ça prend. Soit que c'est les libéraux qui nous le donneront pas parce que finalement, on n'arrive plus dans nos affaires, on avait besoin de plus d'argent, puis là, ils veulent plus. Soit que c'est parce que là, Donald Trump emmène large, puis dans le top 5 des priorités, le tramway vient de disparaître. Ou encore, ben c'est les méchants conservateurs. Okay. Hein?
Mais excusez-moi, là, mais pour ce qui est du troisième lien, ça va être quoi les arguments de François Legault? Parce que t'as un Pierre Poilievre qui, s'il rentre en poste, il veut mettre l'argent du tramway sur le troisième lien. J'ai hâte de voir comment il va faire ça.
Ouais.
Puis t'as la CAQ qui s'est engagée à faire le fameux troisième lien. Puis t'as Québec qui va être en élection dans les prochaines années aussi.
Ça va
être quoi les arguments pour le troisième lien?
Ce fameux troisième lien qu'on nous avait promis avec le plus gros tunnelier du monde qui n'existait pas, pour ensuite nous garantir qu'on le ferait pas, pour ensuite nous regarantir qu'on le referait. Mais là, quand on vous pose la question, ça va être quoi le troisième lien? T'as pas. Il va être où? C'est pas. Combien de temps, dans combien de temps il va être disponible? C'est pas. Combien ça va coûter? C'est pas non plus. C'est une chimère. Arrêtez de les croire. Puis de toute façon, d'un chiffre, ça paraît, c'est de plus en plus évident. Ah oui, oui, regardez-nous aller. T'sais, il a répondu ça à Gilles Lehoulier la semaine passée parce que Lehoulier ne croit plus non plus au troisième lien. T'sais. Puis François Legault, il dit regardez-nous aller. Ben, c'est ça qu'on fait depuis 8 ans. On vous regarde aller puis vous êtes crissement poillard.
Ouais. Faut qu'il parte.
Oui, oui, absolument.
Faut qu'il parte, mais tu le remplaces par qui?
Ben, moi, je veux connaître la suite. Là. Que les grands se lèvent pour peut-être boucler la discussion qu'on avait sur Trump tantôt. Tout ce qui arrive présentement en Amérique du Nord force les grands à se lever debout. On peut penser ce qu'on veut des stratégies. Il y a une première ministre en Alberta qui s'est écœurée d'attendre après tout le monde. Elle a décidé d'aller négocier direct avec Donald Trump. On est d'accord ou pas, elle a fait quelque chose. Doug Ford part en élection là-dessus, lui. Il dit « Moi, je vais être capitaine Canada, mais ça me prend un mandat fort pour être capable de négocier. » Puis il voit que la place est disponible, il a décidé de la prendre. Qu'est-ce qu'on fait, nous autres? François Legault a écrit d'un journal que personne ne lit. À la date, c'est pas mal ça, là. Les vents américains, on n'aura pas nos points de carte inspire, peut-être? Gros move de même, là, gros power move. À date, vraiment pas impressionnant, mais qui est capable de s'imposer au Québec? C'est qui la relève? C'est-tu Paul Saint-Pierre Plamondon? C'est-tu Geneviève Guilbeault?
À Québec, moi, j'ai été déçu la semaine passée. Là, Olga Farman, qui est une femme extraordinaire, une femme extrêmement brillante, qui a été choisie pour être la prochaine PDG du port de Québec.
Oui, 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 oui.
J'ai été déçu parce qu'elle, à la mairie de Québec, elle passe tempête, là.
Tu penses?
Oh, sérieux, je l'ai rencontré une fois dans ma vie. Je l'ai vu évoluer au travers une foule. C'est une personne d'exception. Puis je trouve ça plate que le port nous la vole parce qu'on aurait besoin de ce genre de personne-là à la Ville de Québec. Gentil, mais avec une main de fer.
Ouais, ouais, ouais.
Capable de mettre ses priorités à la bonne place, même s'il y a énormément de pression autour d'elle. Elle était chez Norton Rose.
OK.
Une entreprise, puis ça fait des années qu'on la voit à la mairie de Québec, puis elle a toujours dit non, je suis pas prête, non, je suis pas prête, mm-hmm. Puis là, elle s'en va au comme PDG du port de Québec. J'ai eu une petite déception la semaine dernière. Thomas Gerbin, en fin de semaine, Denis, qui nous annonçait sur Twitter que l'Autorité des marchés financiers a reçu 97 plaintes d'investisseurs de Lion Électrique qui s'estiment légers. Et l'Autorité des marchés financiers a confirmé à ce moment-là qu'ils prennent très au sérieux les informations fournies par les investisseurs de Lion Électrique et mènent actuellement des vérifications importantes. Donc, petite enquête du côté de l'AMF sur Lion Électrique. Puis j'ai hâte de voir si, à un moment donné, l'UPAC, là, qui sont encore avec les histoires de Pic-Pic, là, j'ai hâte de voir si l'UPAC va s'intéresser aussi à ce dossier-là, parce que c'est beaucoup d'argent d'investisseurs québécois qui ont été dilapidés. C'est de l'argent du public qui ont été envoyé dans cette entreprise-là. Les propriétaires de cette entreprise-là se sont enrichis alors que le Québec s'est appauvri. Il y a quelque chose qui s'est passé. Puis il y a une question dans Le Soleil, toujours dans le sondage que je te parlais. Êtes-vous favorable à ce que le gouvernement du Québec continue de financer les grandes entreprises liées à la transition énergétique? Les envers d'eux prennent une méchante débarque, là. Encore là, plus de 61% des gens qui sont totalement favorables ou plutôt défavorables à investir dans ce type d'entreprise-là.
Quand semaine après semaine, on voit que ces initiatives-là, souvent, c'est des vendeurs de vent qui n'ont pas de réel plan de match ou que le plan de match ne s'inscrit pas dans la réalité de tout ce qu'il y a autour. Hey. Le gars du Saguenay, là, qui voulait faire du ketchup québécois, puis il disait « Hey, on va faire tomber Heinz. » D'après toi, qui a gagné le combat, là? Ben, il n'y a pas eu de combat. Il s'est pas rendu à Heinz, puis il a fait faillite avec son ketchup, puis on a perdu quelques centaines de mille d'argent public là-dedans. Ça, c'est une micro-histoire, mais c'est l'histoire de Lion Électrique. C'est l'histoire de Nordvolt. C'est des histoires qui se ressemblent étrangement, ou pour bien paraître, ou pour faire bonne figure, on a mis énormément d'argent sans peut-être faire les vérifications qui s'imposaient, des vérifications financières, des vérifications de crédibilité dans le cas de Lion Électrique. Il semblerait que les propriétaires de cette entreprise-là avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient, mm-hmm. aucune connaissance du marché dans lequel ils voulaient exploser et ils voulaient devenir des leaders. Puis il y a plein de petits investisseurs qui ont été floués. Je me souviens d'un pauvre monsieur italo-québécois qui racontait qu'il avait mis, lui, toutes ses REER dans Lion Électrique. Bien, il dit, le gouvernement investit là-dedans, puis il dit que c'est l'avenir. Il blâme pas le gouvernement, il se blâme lui, mais au total tout, c'est juste un gars qui pensait bien faire parce que le gouvernement mettait ses billes là-dedans. Il y en a combien des histoires tragiques?
Pendant ce temps-là, personne ne prend soin de notre eau, ce qu'elle vaut, puis il y a des investisseurs privés qui sont capables de payer 8 millions de dollars pour avoir des gallons d'eau renouvelables à vie. Moi, ça me fend en quatre.
Tu sais, dans l'histoire de Lion Électrique, tu sais, il y a des trucs là-dedans qui s'apparentent beaucoup au pump and dump, là. Puis je le laisse au conditionnel, parce qu'à un moment donné, longtemps qu'il n'y a pas d'enquête, on ne saura pas ce qui s'est passé. Mais les propriétaires ont envoyé leur entreprise à la bourse moyennant des actions.
Oui.
Et très rapidement, on a dit « ça va bien, ça va bien ». Et en plus de ça, il y avait des salaires, souviens-toi bien, là, au début, il y avait des salaires qui étaient quand même agréables pour être gestionnaire chez Lion Électrique, malgré le fait qu'on ne vendait pas énormément de véhicules, ou du moins, on ne sortait pas de véhicules de l'usine. Et on a doublé, même triplé le salaire des gestionnaires qui étaient à l'interne en disant « on est tellement bon, on fait tellement parler de nous autres qu'on mérite ce salaire-là ». Et quand on est allé à la bourse, quelques temps plus tard, on disait « on est bon, on est bon ». Fait que l'action de Lion Électrique était autour de 23-24 $. Ben, un des propriétaires s'est fait 32 millions de dollars. Il a vendu 32 millions de dollars d'actions que lui a encaissé tout en ayant son salaire grassement payé, en ne fournissant pas ce qui était supposé de fournir aux gens qui faisaient affaire avec Lyon Électrique. Donc, lui s'est enrichi grandement. Est-ce que c'est du pump and dump? Ce sera des enquêtes qui nous le diront.
En tout cas, circonstanciellement, à partir du moment où il a encaissé ses millions, après ça, le château de cartes a commencé à s'effondrer.
Là. Exact. Ouais. Fait qu'il faut qu'il y ait enquête là-dessus. Oh, puis Thomas Gerbet a travaillé là-dessus en fin de semaine, mais... Les gens, là, ils ont de la misère à arriver, là, Denis. Tu sais, il y a des gens qui nous écoutent qui se disent « Comment je vais faire pour faire mon épicerie cette semaine? » Puis t'entends des politiciens qui sont liés d'amitié avec des propriétaires d'entreprises qui obtiennent des millions et des centaines de millions de dollars en financement.
Choquant, hein?
C'est parce que l'argent ne va pas à bonne place. Fait que c'est pas surprenant de voir le fameux 60 % des gens de Québec, là. C'est la région métropolitaine de Québec qui disent « L'argent à des compagnies comme Lyon ou encore Nordvolt, nous autres, on est écœurés que vous encouragiez ces gens-là.
C'est normal.
Peut-être plus en donner aux PME, aux petites PME qui débutent. C'est le poumon du Québec, les PME.
Puis est-ce que c'est notre responsabilité de jouer au poker avec l'argent des contribuables? On pourrait avoir des belles histoires, tu sais. Lyon Électrique, est-ce que ça aurait pu devenir un success story? Story, avec des gros W, ça va bien mon anglais. Peut-être, mais... C'était quoi le pourcentage de possibilités que ça marche ou que ça parte par en haut? T'sais, tu peux miser, toi, sur la défaite du Canadien, mettons, contre les Sabres de Buffalo, là. Même si le pourcentage il te montre que tes probabilités sont pas bien élevées, c'est ton argent, tu fais ce que tu veux avec. Est-ce qu'on peut faire ça avec l'argent des contribuables?
Mais pourquoi on en parle juste après? Ça, c'est un autre problème.
Bien, il y en a qui en parlaient avant. Tu sais, Lyon Électrique, la présentation du troc, de la SAQ, puis ainsi de suite. La filière batterie, ça s'est parlé aussi, Pascal. Il y a des gens
ça
qui...
s'est parlé, mais on a investi. Puis tu sais, je veux dire, même enlève... un collègue qui a investi là-dedans. Moi, je pense qu'il n'y a quand même pas assez de protection sur des projets comme ça gouvernementaux qui sont présentés, puis qu'effectivement, sont où les Nicolas Gagnon de ce monde-là? Il est au fédéral, un petit peu plus, Nick, le Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Mais l'air d'aller qu'on donne à ce genre de projet-là, c'est de laisser aller puis à un moment donné, quand ça plante, de commencer à commenter puis de décrier. Il y a peut-être ça aussi. Et où notre vigilance collective par rapport à ça? Il faudrait donner quelques leçons au gouvernement pour être capable ensuite d'enrayer ce genre de projet-là qui sont capables d'aller très, 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 très loin avant qu'on se fâche.
Je pense qu'on a noyé beaucoup de questions sur le fait qu'on faisait la bonne chose pour l'avenir du Québec. T'sais, on encourage une compagnie de véhicules électriques. On encourage la filière batterie parce que c'est une transition énergétique qu'il faut faire. Écoutez, là, ça va bien aller. Mais c'est pas de même que ça marche, un gouvernement. C'est pas de même qu'on marche, nous autres, avec nos finances, t'sais.
Moi, je me pose énormément de questions par rapport à l'argent public. Puis encore aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe dans l'actualité. On va y revenir dans 30 secondes. Mais tu sais, le 5,6 millions de dollars qu'on a donné en subvention pour avoir des matchs des Kings de Los Angeles à Québec, on a donné 5,6 millions de dollars à Québécois parce qu'il fallait, entre guillemets, combler un déficit. Mais on ne saura jamais de quelle ampleur était ce déficit-là, ce 5 millions de dollars-là qu'on a donné, ce 6 millions de dollars-là qu'on a donné, devrais-je dire. On ne sait pas où y aller. Québécois a empoché combien de profits. Là, ce matin, on me dit, ouais, les Sénateurs d'Ottawa, ils viennent, deux matchs, ils vont faire lequel entraînement ici?
C'est la même affaire.
C'est la même affaire.
C'est le même package deal.
Mais ils sont ici encore plus de jours puisqu'ils vont s'entraîner ici, ils vont faire un camp d'entraînement de ce que je comprends. Puis ça coûte rien.
Ils vont être ici de 4 jours. Ils vont faire des activités communautaires, des entraînements publics, 2 games, dont une contre le Canadien de Montréal.
Ouais. Puis ça coûte rien.
Ça coûte rien. Okay. Comment ça fait que ça coûtait de l'argent il y a un an? C'est-tu juste parce que par politesse, les sénateurs en ont pas demandé?
Je le sais pas, mais je veux toujours savoir où est passé mon 5,6 millions qu'on a donné à Québécois.
Et pourquoi les Kings en avaient besoin alors que les sénateurs font exactement la même chose puis ils n'ont pas besoin?
C'est tellement patenté. Là. C'est tellement patenté. À un moment donné, on vient qu'à se dire à qui on peut faire confiance.
Exact.
Denis Gravel, c'est toujours un plaisir. On te laisse au bon soin à 14h de ton show avec Véro et Audrey. Est-ce que Pierre sera avec vous? Parce qu'il est avec nous ce soir, Pierre.
Pierre en studio aux environs de 16h, 16h15.
La grande visite.
La visite rare, effectivement.
Puis là, ce soir, on va avoir une conférence.
Ben oui! Pierre. On est gâtés.
Ben oui, on a hâte de voir ça. Midi 31, merci Denis.
Salut.
Bye bye.
Reg Against et Marceau le midi avec Marceau et Pascal CV.
Quand j'ai entendu ça ce matin, j'étais fier de mon Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Ils se sont levés. Ils se laisseront pas marcher ses pieds. Salut Nick.
Salut, ça va bien?
Ouais, t'avais un ton solennel ce matin. T'avais une belle coiffure aussi.
T'étais habillé chic aussi, là.
Bel homme, on te félicite.
Ben merci. Écoute, je ne m'attendais pas autant de compliments ce matin. Ben oui, écoute, il fallait avoir le ton le plus solennel que possible parce qu'on était effectivement au Parlement à Ottawa pour faire notre conférence de presse et effectivement pour lancer les hostilités contre l'Agence du revenu du Canada et sa, ce qu'on appelle sincèrement une hausse illégale et antidémocratique de l'impôt sur le gain en capital. Donc, je suis content en tout que tu as pu jouer même l'introduction de la note que j'ai adressée, ne serait-ce que devant les quelques journalistes qui étaient là et qui nous regardaient sur Zoom, parce que effectivement c'est quand même tout un événement. C'est pas la première fois qu'on fait une conférence de presse comme ça, et j'espère que c'est pas la dernière fois, mais du moins j'espère que c'est la dernière fois pour la hausse de l'impôt sur le gain en capital, puis qu'on pourra éventuellement mettre ça derrière nous, puis avoir une autre victoire pour les contribuables. Mais effectivement c'était quelque chose ce matin, puis merci d'avoir été à l'écoute puis de nous aider à pousser le message pour que tout le monde soit au courant de notre travail pour les contribuables.
On en a régulièrement parlé de ça, le fameux gain en capital. Est-ce que tu peux, pour les auditeurs qui ne sont pas au fait de ça, est-ce que tu peux nous faire la prémisse de ça et où est-ce qu'on en est rendu? Puis pourquoi c'est quelque chose qui n'a pas été voté à Ottawa, mais qui est quand même pris en charge par Revenu Canada?
Oui, ben pour faire histoire courte, tout le monde se souvient qu'en avril 2024, le gouvernement de Trudeau a déposé son fameux budget. Dans ce budget-là, il avait inclus aussi une hausse du taux d'inclusion sur le gain en capital. Donc, essentiellement, tous les gains supérieurs, donc quand on parle par exemple l'avance d'une maison secondaire, d'un chalet, d'un immeuble à revenus ou d'une entreprise d'actions à la bourse, donc tous les gains qui sont supérieurs à 250 000 $ ben en fait, en haut de cette tranche-là, c'est 66,7% de ce montant-là qui sera imposé. Et là, après ça, ça va varier en fonction du revenu. C'est la modification du taux d'inclusion, aussi niaiseux que ça puisse paraître, ça permet au gouvernement fédéral d'aller chercher pas loin de 7 milliards de $ dans les poches des contribuables canadiens d'un bout à l'autre du pays dès cette année. Et au courant des prochaines années, ça permettrait aussi d'aller de continuer à aller chercher des revenus supplémentaires. La raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est simple. C'est Mme Freeland, en plus, qui l'avait dit à ce moment-là, ce qui est assez particulier parce que il y a quelques jours, elle a dit qu'elle allait annuler cette hausse si elle était première ministre. Mais quand elle était ministre des Finances et vice-première ministre, elle disait « on va hausser l'impôt sur le gain en capital pour pouvoir ne serait-ce qu'aller chercher des revenus supplémentaires puis éviter d'avoir des déficits trop importants ». Finalement, tout ça est tombé à l'eau. Les déficits sont plus importants que prévu. Mais le pire là-dedans, c'est qu'ils ont déposé, en fait, une sorte de motion et de voie et de moyen pour introduire tranquillement la notion de la hausse de l'impôt sur le gain en capital. Mais ils n'ont jamais fait de projet de loi. Le projet de loi n'a jamais été déposé. Il n'a jamais été adopté ni promulgué en bonne et due forme d'une quelconque manière, en fait. Et la réalité, c'est que là, on est rendu en janvier 2025. Le Parlement est fermé. Il est prorogé jusqu'au 24 mars. Et ce projet de loi-là, du moins dans sa forme initiale, a été carrément mis sur une tablette suite à la prorogation du Parlement. Ce qui fait en sorte que finalement, la hausse de l'impôt sur le gain en capital ne s'applique pas. Le gros problème, par contre, c'est que l'Agence du revenu du Canada, eux, depuis juin dernier, ils procèdent à aller chercher cette hausse de l'impôt des gains capitaux et donc essentiellement d'imposer les gens qui, par exemple, qui partent à la retraite et qui vendent leur commerce ou leur immeuble à revenus. Ces personnes-là sont directement ciblées par cette hausse-là, inévitablement. Mais l'affaire, c'est que la loi n'a jamais passé. Et ça reste quand même très problématique parce que dans la Constitution canadienne, comme vous avez peut-être pu l'entendre dans ma note d'introduction, ben c'est effectivement inscrit, un peu comme dans ce principe qu'on entend souvent aux États-Unis, no taxation without representation, pardon. Ben c'est un principe parlementaire britannique qui est aussi important pour les Américains qu'il est important dans notre Constitution au Canada. Et donc, de facto, vu que la hausse de l'impôt n'a jamais été votée, l'Agence du revenu du Canada n'a pas le droit d'aller chercher cet argent-là dans les poches des contribuables d'une quelconque manière. Et ben voilà, donc on est dans une sorte de situation bien particulière parce que l'Agence du revenu elle-même est pas sûre de savoir si elle devrait aller chercher l'argent ou pas. C'est quasiment du cas par cas. Donc c'est très chaotique comme situation. Et en plus, ben il faut le rappeler, même si le Parlement rouvre le 24 mars prochain, les chances que ce projet de loi-là soit adopté sont extrêmement minces parce que toutes les parties de l'opposition veulent aller en élection. Et en plus, ben ceux qui aspirent à remplacer Justin Trudeau comme, mettons, Mme Freeland, ou peut-être même Carney, les deux semblent être assez ambigu, ou du moins s'intéressent peut-être à revenir en arrière par rapport à cette hausse de l'impôt-là. Et ben Poilievre, qui est élu premier ministre pour les conservateurs, lui aussi a été assez clair là-dessus. Donc, on est vraiment dans une situation très particulière, très chaotique, et il faut rappeler que la hausse de l'impôt sur le gain en capital arrive au pire moment. On hausse les impôts alors que l'économie pourrait faire face à une récession à cause des craintes par rapport aux tarifs que les Américains pourraient imposer. Et par-dessus le marché, ben on a quand même une économie qui a connu des revers assez importants, qui est au ralenti, et on a des contribuables qui en ont vu de toutes les couleurs au cours des dernières années. Donc, bref, tout ça arrive au pire moment, tant pour notre économie que pour les contribuables, que pour le pays en général. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris, nous, les grands moyens pour aller lever le financement et se doter d'avocats, en fait, pour aller en cours devant l'Agence du revenu du Canada et s'assurer à ce que cette hausse de l'impôt du gain en capital ne soit plus du tout appliqué. Parce que et je vais vous dire aussi pourquoi, en fait, le dernier point que je vais emmener, c'est que ça pourrait être un très dangereux précédent. Si l'Agence du revenu du Canada ou n'importe quel percepteur d'impôts se met à cueillir de l'impôt sur la prémisse que le Parlement va peut-être le faire bientôt, donc on prend de l'avance. Non, je suis désolé, mais la règle, c'est le Parlement fait et ensuite l'Agence du revenu va suivre.
Exact.
Et non l'inverse.
Mais Nicolas Gagnon, est-ce qu'il n'y a pas un contentieux qui a conseillé cette décision-là? Je peux pas croire qu'ils n'ont pas demandé à des avocats si c'était possible de le faire, même si ça n'avait pas passé par Ottawa avant. Puis si finalement les conservateurs arrivent au pouvoir puis ils enlèvent ça, là, tout l'argent qui va avoir été prélevé va être remis aux individus avec intérêt. Donc, ça va coûter encore plus cher aux contribuables.
Oui, ça va coûter très cher. En plus, ils ont engagé des fonctionnaires de plus pour aller chercher cette taxe-là. Donc, déjà, on a des coûts récurrents qui se sont ajoutés. Puis oui, on se demande effectivement s'ils ont pris le temps de faire leur devoir, ne serait-ce qu'au d'un point de vue légal, de considérer l'impact que ça pourrait avoir d'augmenter l'impôt, ou du moins de laisser l'Agence du revenu aller percevoir un impôt qui n'a pas encore été voté. C'est toute la notion même du problème est là, carrément. C'est à se demander si le gouvernement fédéral a fait ses devoirs. Mais nous, on a fait les nôtres, on est persuadés qu'en fonction de la Constitution, l'Agence du revenu n'a pas du tout le droit de le faire. En fait, et c'est pas juste pour éviter un précédent, mais aussi s'assurer à ce que les personnes ne soient pas davantage pénalisées par cette hausse d'impôt qui n'avait pas lieu. Il faut rappeler aussi que quand ils ont mis la date butoir en juin dernier, c'est à partir de ce moment-là que l'Agence du revenu du Canada s'est mis à percevoir l'impôt sur le gain capital, essentiellement parce qu'ils ont passé le budget en avril, puis ils ont dit qu'ils allaient commencer à percevoir cette hausse-là, ou du moins qu'elle entrait en vigueur dès je pense que c'était le 15 ou le 24 juin, quelque chose comme ça. Sauf que, comme dit, ça n'avait pas été encore voté. Mais de l'autre côté, eux, ils commençaient déjà à se préparer. Et la réalité, c'est qu'au Canada, apparemment, ça, c'est quelque chose que j'ai appris quand même assez récemment, c'est que des fois, l'Agence du revenu va se préparer assez rapidement à mettre en place ces nouvelles politiques, ne serait-ce que les nouveaux programmes ou autres, parce que des fois, entre le moment où est-ce qu'on l'annonce et le moment où est-ce qu'on le fait, il y a toute une adaptation qui est nécessaire. Mais là, c'est comme si l'Agence du revenu s'était adaptée super rapidement, il s'était préparé, il commençait à faire son travail avant même que les politiciens aient voté la pièce législative. Et à la fin, je pense que l'Agence du revenu elle-même s'attendait à ce que les politiciens fassent leur job, parce qu'il faut se dire une chose, ils ont passé le budget en avril 2024, qui n'ont pas été foutus, je suis désolé, mais ils n'ont pas été foutus de passer un projet de loi entre avril 2024 et la prorogation du Parlement. Donc, à la fin de la journée, oui, d'un, il y a des politiciens qui n'ont pas fait leur travail, puis c'est peut-être une bonne chose au final, parce que c'est là-dessus qu'on se base pour être en mesure de combattre cette hausse-là. Mais par-dessus le marché, oui, ça crée tout un litige qui pourrait, comme tu l'as dit tantôt, mener à des règlements en cours. Nous, de notre côté, on représente justement un couple de l'Ontario, le couple s'appelle Vosteveld, donc je ne vais pas aller plus dans les détails. Ils sont de Mapleton en Ontario et ils ont appelé la fédération pour nous demander ne serait-ce que savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Et c'est là qu'on a regardé c'était quoi les différentes approches qu'on pouvait faire au niveau légal pour justement les défendre et défendre de ce même fait tous les autres contribuables qui seraient lésés par cette hausse d'impôt. Et il faut aussi dire que quand la hausse d'impôt était annoncée, il y a des gens qui se sont dépêchés à vendre leurs actifs. Et ça, c'est quand même assez grave. Et ça, je me demande même si ça va pas donner donner place à d'autres litiges. Parce que quand ils ont mis la date butoir en juin 2024, il y a des gens qui se sont dit, si la hausse de l'impôt du gain en capital arrive, moi, je risque de perdre des dizaines de milliers de dollars quand je vais vendre mon immeuble à revenus pour ma retraite. Donc, je vais le vendre tout de suite. Donc, il y a du monde qui se sont dépêchés à vendre leurs actifs.
Tu le vois comment, Nick? Tu le vois-tu comme un genre... Ben, c'est pas un délit d'initié, mais sachant de l'information, ils décident de pas laisser aller les choses. Mais c'est je sais pas comment le voir.
Ben, c'est parce que les gens qui ont vendu leurs actifs en se disant, ben, OK, la hausse de l'impôt s'en vient, donc je vais me dépêcher à vendre mes actifs avant de devoir payer plus d'impôts essentiellement. Puis là, ils se ramassent quelques mois plus tard puis ils se rendent compte que la hausse de l'impôt n'a pas eu lieu. Ces personnes-là auraient peut-être attendu quelques années avant de vendre leurs actifs et donc ils auraient peut-être pu en profiter davantage en vue de leur retraite ou de leurs prochains investissements. Mais à la place, ils ont été un peu pris au dépourvu parce qu'ils ont vendu pour épargner sur de l'impôt qui ne s'appliquera peut-être jamais. C'est fou à quel point toute cette situation-là crée des problèmes qui peuvent avoir tant de nature légale que financière pour un nombre incroyable de Canadiens. Puis je tiens à rappeler une chose, puis ça c'est peut-être mon dernier point pour pas trop renforcer des chiffres là et des arguments légaux, mais l'institut public en politique publique qui s'appelle CDR, qui est basé en Ontario, ils ont publié un rapport récemment qui indique que cette hausse de l'impôt du gain de capital va pas juste affecter effectivement monsieur et madame tout le monde qui ont des épargnes ou des actifs, ça va aussi affecter l'économie en général. On parle d'une perte de 90 milliards au courant des 5 prochaines années. C'est l'impact qu'aurait cette hausse de l'impôt sur l'économie canadienne. Et ça pourrait faire fuir ou même faire disparaître pas loin de 400 000 emplois au courant des 5 prochaines années. Donc, c'est quand même pas rien comme hausse d'impôt. Ça a beaucoup d'impact, beaucoup de conséquences sur l'économie en général. Et il faut rappeler, cet impôt-là n'a pas été voté par le Parlement. Et c'est là-dessus qu'on va se battre, en rappelant qu'il faut que chaque impôt soit voté, promulgué et adopté en bonne et due forme par le Parlement avant d'être appliqué.
Non, good job en passant. C'est un très bon coup de la Fédération canadienne des contribuables. Je veux te parler de Michel Girard. Par les années passées, on a souvent reproché à des journalistes qui suivaient un peu le beat de la politique d'être souvent dans le même lit que les politiciens qui suivaient et sur lesquels ils écrivaient des articles. Michel Girard, c'est un gars que j'adore, c'est un gars que je respecte beaucoup. C'est un gars qui n'a jamais accepté d'être copain-copain avec les politiciens, si ce n'est que peut-être des fois d'échanger de l'information. Mais il met souvent le gouvernement dans l'embarras. Et là, il a fait réagir beaucoup Sonia Lebel. Là.
Ben oui, parce qu'il a publié en fin de semaine un très bon, une très belle chronique, en fait, là, qui rappelle que sous le gouvernement Legault, ne serait-ce qu'à plusieurs niveaux, on a vraiment augmenté la taille de l'État, ou du moins le payroll du secteur public, comme il dit, a drastiquement augmenté. Quand on regarde juste le nombre de travailleurs dans les services publics au Québec depuis en 2019 et 2025, 2024, pardon, donc les cinq dernières années, on parle quand même de 176 500 employés de plus qui se sont rajoutés à l'ensemble là, de la bureaucratie, tant au niveau municipal, provincial que fédéral. Puis de ce chiffre-là, ben nous, on le martèle souvent, ce fameux chiffre-là, il y a quand même 72 500 fonctionnaires de plus au niveau du gouvernement du Québec lui-même. Donc, plus du tiers des effectifs gouvernementaux qui ont été ajoutés à la machine, ne serait-ce qu'en sol québécois, sont directement dans la machine de François Legault, donc au niveau québécois. Et je pense que Sonia Lebel, au début, elle voulait corriger Michel Girard sur le fait que quand il a sorti ses chiffres de 176 000, elle lui reprochait qu'effectivement, non, c'est pas toute la fonction publique québécoise, puis blablabla, on n'est pas 100% responsable de ça. Mais la réalité, c'est que le 72 500, ça, c'est 100% leur responsabilité. C'est le chiffre qu'ils ont ajouté à la fonction publique alors qu'ils promettaient d'en réduire de 5 000 le nombre d'effectifs. Oui. Un travail qui n'a jamais été fait. Et au final, ça a fait sauter, les dépenses, je veux pas.
Puis souvenons-nous de François Legault, avant qu'il vienne au pouvoir, mentionnait qu'il allait couper dans la fonction publique. Là, lui, Michel Girard nous parle de 176 500 employés de plus qui ont été ajoutés sur le payroll du secteur public québécois. Ça, c'est 176 500 bons salaires, mais en plus, il y a le fonds de pension qui vient avec ça, là.
Oui, il y a le fonds pension qui vient avec ça. Puis tu sais, là-dedans, il y a quand même pas loin d'une de plusieurs. J'ai pas les chiffres exacts devant moi pour le fédéral, par contre, mais il y a quand même quelques dizaines de milliers qui sont au fédéral là-dedans. Puis je tiens à rappeler qu'environ un travailleur sur trois de la fonction publique fédérale fait un salaire dans les six chiffres. Donc, c'est quand même pas des mauvaises conditions. Et généralement, ils ont quand même des fonds de pension qui sont ajustés en fonction du salaire. Donc, généralement, ils s'en tirent plutôt bien. Et oui, à la fin, c'est qui paye pour tout ça? C'est nous, les contribuables. Et ce qu'on voit d'un, ne serait-ce qu'un retour intéressant pour, ne serait-ce qu'au niveau de la qualité des services ou leur accessibilité à n'importe quel niveau, ne serait-ce que d'avoir un peu plus d'argent dans nos poches en contrepartie. Si on n'a pas les résultats, ben, il n'y a rien de ça, malheureusement.
Ouais. Quand tu regardes ça depuis 2019, là, il y a 176 000 personnes de plus qui travaillent au gouvernement et ça ne s'est pas amélioré.
Ben, c'est ça le problème. Puis on s'entend que ben 176 000, c'est sûr qu'il faut toujours le répartir à droite puis à gauche entre les administrations municipales et le fédéral et le provincial. Mais qu'on prend juste le Québec, qu'on prend juste les 72 000 qui ont été mis dans la machine québécoise. Bon, on essaie de voir était où l'amélioration quand on a engagé plus d'effectifs chez Hydro-Québec, entre autres. Les effectifs ont augmenté de pas loin de 20 % au courant des 5 dernières années. Pourtant, est-ce qu'on a l'impression que c'est mieux ou que le réseau énergétique est plus stable ou qu'on a moins de coupures d'électricité? C'est une question qui vaut la peine d'être posée. De la même manière que quand on regarde, par exemple, le budget en santé qui a augmenté de pas loin de 70 % au courant des 5 dernières années, est-ce qu'on a l'impression d'être mieux servi ou du moins d'être mieux traité dans le système de santé? Ben, poser la question, c'est y répondre. Donc, des fois, il faut se poser cette question-là. Est-ce que l'ajout d'effectifs, est-ce que l'ajout de programmes a mené à une amélioration? Puis, ben, si on n'est pas capable de répondre positivement, ben, c'est là qu'on est supposé se revirer de bord puis faire le ménage. Ben, le ménage comme tel que François Legault promettait en 2018, ben, il l'a jamais fait. Et malheureusement, nous, contribuables, on paye pour ça. Et on paye pour un État plus lourd, moins efficace et beaucoup plus coûteux.
Nicolas Gagnon, félicitations à toi et ta gang d'aller au BAT contre le gouvernement pour le contribuable. C'est tout à fait louable de votre part, puis ben merci beaucoup de le faire.
Ben écoute, c'est à moi des choses. C'est pour ça qu'on fait notre travail. On aime ça, de se battre carrément. C'est notre motivation. On se lève le matin, puis on sait très bien ce sur quoi on va fesser. Et dans ce cas-ci, ben écoute, c'est un plaisir de nous battre pour les contribuables. Il y a du monde qui m'ont interpellé en me disant est-ce qu'on va faire la même chose pour le Québec, considérant que Éric Girard a harmonisé l'impôt sur le grand capital du Québec avec celui du fédéral. On regarde tous les scénarios, c'est tout ce que je veux dire, mais une chose est sûre, c'est un plaisir de me battre pour les contribuables tous les jours.
Midi 57, on s'arrête. Merci, Nick!
Toujours un plaisir, salut!
Bye-bye. Pour en savoir plus sur Nicolas Gagnon et la Fédération canadienne des contribuables, c'est contribuable avec un S.ca, contribuable.ca.
Marceau le midi. Pourriez-vous lui demander qu'il lise ses courriels puis qu'il fasse ses concours, s'il vous plaît? La direction vous remercie. Marceau le midi.
C'est une grosse nouvelle qui a commencé à couler hier. Les Sénateurs d'Ottawa qui vont s'amener à Québec pour deux matchs du calendrier pré-saison 2025. La bonne nouvelle, c'est que ça ne nous coûtera pas une scène. Donc, où sont nos 5,6 millions de dollars qu'on a donnés à Québécois pour ce qui est de la venue des Kings de Los Angeles? Mais les Sénateurs, eux, n'auront pas de subvention. Les Devils de New Jersey qui vont être en ville le 28 septembre, donc demain, avant que le Canadien de Montréal s'amène le 28 septembre. C'est l'année prochaine en passant. En fait, le 28 septembre, qui s'en vient, devrais-je dire?
Mm-hmm. Ce ne sera pas mêlant de même.
Je l'ai eu. Et deux jours plus tard, c'est le Canadien qui va s'amener le 30. Donc, on a tout su ça ce matin à la conférence de presse. Sinon, au sport, comment dis-je? Go, Casey, go!
Ah ouais, hein, tant que ça, les Chiefs, toi, pour le Super Bowl?
Oui, bien, ah Pat Mahomes, ouais, hein? Moi, je l'aime bien. Je suis juste déçu que les Commanders n'aient pas gagné, parce que j'aurais aimé les voir contre Kansas City quand même. C'est une belle histoire, là, cette année.
Ouais.
Les Commanders sont deux ans d'avance.
Ouais, mais
les
Eagles,
Eagles ont été
fun.
Beaucoup trop dominants.
Là. Moi, j'aurais pris une pause, là, des Chiefs, pour le Super Bowl. On les a vus beaucoup. Mm. Les Bills, j'aurais aimé ça voir comment ils se seraient défendus contre les Eagles.
Mais c'était un match très offensif entre les Eagles et les Commanders hier, puis c'était tout un match. Je pense que c'était ça, le Super Bowl hier, ouais. Les Chiefs contre les Bills.
Belle
victoire
dit.
Des Chiefs, 32 à 29 contre les Bills. Donc, ce sera Chiefs contre Eagles. Et moi, je vais avec les Chiefs pour ce qui est du Super Bowl. Toi, Pascal?
J'ai l'impression qu'ils vont gagner, mais j'aimerais ça y aller avec mon cœur, soit les Eagles.
On met-tu de l'argent sur la table? Deux
piastres. Non, t'es-tu malade?
Deux piastres!
Toi, parce que tu vas trouver une façon de gagner de toute manière, puis tu vas dire que ça coûte finalement 350 piastres.
Exactement.
Comme le pourboire que t'as laissé à un de mes livreurs Uber Eats.
C'était pas 350
$.
Ça m'avait passé son cellulaire pour payer le livreur. Et j'ai décidé de payer grassement le livreur.
200 $ de pourboire.
Non, c'était pas à ce point-là.
C'est plus que 100.
J'existe pas dans l'entrevue encore, là, mais je tiens à dire que tu serais bon en politique parce que tu es excellent pour dépenser l'argent des autres.
Exactement! Exactement. Toi qui as œuvré en politique, tu les connais, ces politiciens-là. David Chabot, toujours un plaisir de te recevoir en studio, mon ami. Qu'est-ce qui se passe? Je suis allé voir mes actions en bourse ce matin là, avec mon fameux compte Disnat. Là. Puis là, ça descend. On me dit que Wall Street est bien inquiète d'une application chinoise, ChatGPT chinois. Qu'est-ce qui se passe?
DeepSeek.
J'espère pour toi que t'as pas de Nvidia parce que c'est vraiment un bloodbath là aujourd'hui.
J'ai pas d'Nvidia, non.
Hey, t'as dit bloodbath. Il y a plein de monde qui saigne du nerf à vous écouter jusqu'à maintenant.
Pourquoi non?
Parce que...
on est trop anglophiles.
Non, mais je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas que ça existe, ça. Faudrait repartir de la base.
Tu parles de l'IA génératif? Là?
Du DeepSeek, entre autres, là, le genre de ChatGPT chinois. Je pense que c'est arrivé dans le face des gens très rapidement ce matin, sans qu'ils sachent que ça existait auparavant.
DeepSeek
ouais.
Ou l'intelligence artificielle en général?
Non,
parce que
DeepSeek.
Là, à un moment donné, tu sais, je vous ai fait votre job
d'interprétation. Oui, là, à un moment donné, j'expliquerai pas c'est quoi une sandwich au butter peanut.
Parle avec moi.
Ouais. OK. Mais
tu vois, ça va être un fil continu.
Si on fait une histoire courte, oui, c'est une entreprise qui ressemble à OpenAI, qui est l'entreprise derrière ChatGPT, mais en Chine. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est que quand il y a eu justement les premiers modèles de ChatGPT puis de Gemini là, chez Google, en Chine, c'est un fonds d'investissement, là, un hedge fund pour les gens qui savent c'est quoi, qui a dit « Moi, je vais faire la compétition là-dedans puis je vais être plus efficace. » Fait que là, ça a été annoncé en mars 2023, si je ne me trompe pas. Mais là, ce qui a fait la grosse différence, c'est que la semaine passée, ils ont sorti un genre de... Là, je vais encore faire un anglicisme, je m'excuse, mais un « proof of concept ». Je sais pas comment tu dirais ça en français, là, mais une démonstration conceptuelle
que ça fonctionne.
Bon, de leur nouveau modèle qui est extrêmement plus efficace que ce que OpenAI, donc ChatGPT, est capable de faire.
Et beaucoup moins coûteux.
Moins coûteux pour le développer. Ouais. Ça utilise beaucoup moins d'énergie et d'informations en arrière pour pouvoir faire le même résultat. Donc là, c'est la catastrophe sur les marchés parce que tout le monde se dit « Ouais, t'as peu, le modèle là, de... » extrêmement lourd sur les infrastructures de Nvidia, parce que là, ça prend beaucoup de chipsets, puis là, ben, t'as investi des milliards pour être capable de faire ça. Finalement, peut-être bien que c'est juste c'est mal programmé en arrière, puis que c'est pas efficace, puis que là, t'es capable de faire la même chose avec beaucoup moins d'investissement. Puis là, évidemment, la bourse, comment c'est fait, c'est que t'achètes la prospection, encore en anglais, je m'excuse, de revenus et de profits dans le futur. Donc là, si le stock est vraiment haut, c'est que les gens se disent ben, « ça va valoir plus cher plus tard puis ils vont faire plus de profit ». Mais là, si tu dis ton modèle n'est pas assez efficace puis que dans le fond, tu dépenses de l'argent pour rien pour devenir un mastodonte d'infrastructure qui est moins capable de générer des revenus, ben là, le stock va baisser. On est d'accord? C'était-tu bien expliqué?
Absolument. Déjà, te remercie en passant.
Moi, ça?
Oui, pour nous expliquer, continue.
Ben, je vous remercie de me remercier. C'est toujours sympathique d'avoir du feedback en temps réel. Tu sais, je me sens choyé là, d'avoir... Bref, tout ça pour dire que c'est quand même majeur parce que là, ben, évidemment, là, il y a les actions et tous les portefeuilles de Marceau du monde. Là. Mais ça change la game parce que là, la semaine passée ou l'autre avant, là, Trump a annoncé 500... Ben, ça doit être la semaine passée, ça fait une semaine qu'il était introduit, mais il a annoncé 500 milliards en intelligence artificielle.
Ouais.
Puis là, ben, c'est un peu tout ça, c'est un même vibe-là. Là, on garoche du cash sur le problème jusqu'à temps qu'on le règle. Là, ça, c'est très nord-américain. Mais est-ce qu'on fait pas la bonne affaire? Est-ce qu'on est en train de développer un modèle extrêmement lourd en infrastructure qu'on a juste mal codé au départ puis que là, finalement, on va pouvoir travailler tout ça? Puis c'est majeur parce que là, on parle d'économie puis de bourse, mais socialement, c'est un enjeu, ça, parce que l'intelligence artificielle va prendre beaucoup de place dans notre vie. Là, on le sait. Là, puis moi, je suis tombé dans le rabbit hole, une affaire pas possible, puis j'utilise ça tous les jours puis je capote. Mais c'est beaucoup d'énergie en arrière pour les centres de données puis les superordinateurs.
Est-ce que les Américains seraient capables d'empêcher cette application-là en sol américain? Parce que c'est un ChatGPT chinois.
Ben, ils l'ont fait avec TikTok pendant à peu près 48 heures, là, ouais. Jusqu'à temps que Trump rentre et qu'il fasse un décret là-dessus. Oui, c'est possible, mais tu sais, philosophiquement, en tout cas, là, remarque qu'on est dans une ère de protectionnisme et de tarifs, là, mais... Je pense que les États-Unis, globalement, dans leur histoire, sont tout le temps vers le plus d'efficacité puis essayer d'utiliser la meilleure technologie puis s'en inspirer. Puis là, c'est peut-être le temps de faire un peu d'espionnage industriel de l'autre bord parce qu'on se l'est fait faire pas mal par la Chine dans le passé. C'est peut-être le temps à nous autres de le faire. Là.
Parce que ChatGPT enregistre pas mal tout ce qu'on lui demande. Là. Puis quand il y a des modifications ou quand tu lui fais une confidence, il enregistre tout ça. Puis des fois, deux, trois jours plus tard, il te revient avec quelque chose. Là.
Il se souvient de tout puis il est capable de s'autoréguler puis d'apprendre comme une éponge par le partage de tous et chacun.
Mais Marceau, si t'as besoin de te convier, je suis là.
Oui.
Si t'as besoin de me parler.
Oui, oui.
Je suis peut-être pas génératif, mais je suis attentif.
C'est ça. Mais ils l'ont fait avec TikTok. Est-ce qu'ils seraient capables de le faire pour des raisons pareilles avec ce fameux ChatGPT chinois-là qui prend beaucoup moins d'énergie, qui coûte beaucoup moins cher et qui est plus efficace?
Bien, il va falloir qu'ils le fassent. Parce que là, c'est toute l'industrie des supraconducteurs aussi en arrière de ça, une technologie qui est encore émergente, mais... je ne suis pas expert en technologie de ça, mais c'est que c'est des pièces qui sont extrêmes. Il n'y a pas de résistance, dans le fond, parce que tu es en dessous d'un certain degré Celsius qui fait en sorte qu'il n'y a pas de production de chaleur, ce qui fait que la puce est plus efficace. Là. C'est sûrement qu'il y a des gens à la maison qui roulent des yeux parce que je l'ai mal expliqué, mais tout ça pour dire que cette technologie-là, dans le fond, était liée avec le développement incroyable de l'intelligence artificielle puis de la capacité de calcul dans l'univers. Puis il y a les ordinateurs quantiques aussi qui est sur le site que je comprends rien là-dedans parce que là, le chat, il est là puis il n'est pas là puis ça
mais
calcule en même temps.
La seule chose dans tout ça, il faut quand même faire attention parce qu'ils ont réfléchi à pourquoi ils ont produit quelque chose de plus performant et de moins énergivore. Puis c'est ça qui est attractif. À chaque fois qu'on travaille là-dessus, sur une technologie du côté de la Chine, il y a quand même un genre de petit regard quant à comment on va aller se financer là-dedans, comment on va aller chercher de l'information sur des communautés qui ne sont pas la nôtre pour on ne sait pas quoi encore. Puis là, on n'est pas dans le complot, on n'est pas dans... Ça a été prouvé, là. Auparavant, les Chinois développent de la technologie gratuite pour que vous soyez un genre de pion dans tout ça puis qu'on récolte de l'information. Je comprends que ça peut être super intéressant de se tourner vers ça parce que c'est puissant, c'est bon, ça nous fait avancer, on a le goût de quelque chose qui est efficace, mais à quel prix? Puis ça revient toujours à ça, c'est la question qu'on doit se poser parce qu'au final, peut-être qu'en ce moment, on ne voit pas à quel point ça va nous coûter cher, mais dans quelques années, ça pourrait, puis on n'aura pas arrêté la roue.
Parce que, tu sais, mettons, je m'en sers au bureau, ChatGPT, puis Claude.ai, là, je vous le suggère, en passant, Claude.ai, c'est vraiment malade. Puis, mais tu sais, des fois, je prends des documents que j'ai déjà écrits, je le mets dedans, puis je dis... analyse que, comment, de la façon que j'écris, puis après ça, produis-moi un draft sur telle affaire. Bon. Fait que là, ben, il te le génère, tu sauves du temps malade, mais l'information que j'ai mis dedans, le document que j'ai déjà produit dans le passé, que j'ai écrit moi-même, il y a de l'information quand même interne.
Ouais.
Puis là, c'est tout le temps... Tu sais, moi, on s'en fout, là. Tu sais, ce que je fais dans la vie, c'est pas de la sécurité nationale, bien qu'on a quand même nos recettes. Mais imagine quelqu'un, là, évidemment, ça arrivera pas, mais au SCRS qui plug un document interne pour dire « Peux-tu me faire un résumé de la note? » Ben là, t'as de l'information super sensible qui vient de sortir du système.
Ah, mais tous ces appareils-là, ça a remplacé les fameux trucs d'espions là, d'autrefois où les espions ont réussi à s'introduire dans les entreprises puis laissaient traîner des fameuses clés USB avec des collants de Mickey Mouse dessus.
Autrefois étant, c'est encore le cas.
Puis là, t'avais un marceau qui passait puis une clé USB avec un Mickey Mouse dessus, je vais pouvoir faire écouter ça à mes enfants, mais je vais regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Tu rentrais ça dans l'ordinateur à job et pouf, il rentrait dans ton ordinateur
sans
au complet
que tu t'en
et dans le système au complet. Tu sais, TikTok, ça va être, c'est ça aussi. Mm. Ça t'écoute constamment, puis ça envoie de l'information quelque part. De quelle façon ça va être pris, puis qu'est-ce
YouTuber,
qu'ils vont faire avec ça, on ne sait pas.
Moi, je suis tombée là-dedans là, la dernière semaine. Il est super intéressant. Je vais vous retrouver le nom, mais en gros, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il démontre à quel point il est capable d'aller loin dans son salon, parce que c'est un hacker, et il vous démontre comment est-ce qu'il réussit même à rentrer dans les ordinateurs. Puis il le fait souvent avec les fraudes là, d'amour, là, les arnaques. Là. Bon, quand tu as un arnaqueur qui est en train de faire wapper une jante d'âme, moi,
c'est
genre
pas Brad Pitt qui m'écrit.
Ben, il est capable de prendre possession de son ordinateur puis d'écrire devant le hacker et devant la victime des choses. Fait que là, le hacker commence à paniquer parce qu'il dit « Crime, on est rentré dans mon ordi, c'est qui est derrière? » Puis il l'envoie promener dans la même conversation que le pirate, mettons, a avec la victime. Fait que ça se passe à une conversation à trois. Il démontre plein de choses. Ça, c'est le minimum de ce qu'il démontre, mais il est quand même capable maintenant d'aller très, très loin dans les processus russes, dans les processus chinois. Et il te met quand même une claque d'en face par rapport à tout ce qui est... Moi, en ce moment, là, avec mon ordinateur, là, je salue peut-être quelqu'un qui a décidé, sans que je m'en rende compte, que ma caméra soit ouverte dans son salon, là. Peut-être qu'à chaque jour, il n'écoute pas sur Twitch, lui, la radio. Il écoute ça par rapport à mon ordi. Parce qu'il dit que ben, c'est la vue qu'il veut. Peut-être que toi, c'est ton cellulaire, Yannick, quand tu es dans ton salon ou dans ta toilette. Puis tu n'as pas une alerte qui te dit « Je prends possession de ta caméra. »
Si quelqu'un veut la vue de moi sur ma toilette, là,
je te jure, ça ne sera pas moi.
Il est prêt
ben,
à
lui,
payer.
Il voulait. Là. Lui, c'est quoi son nom déjà, là, le gars de la Naudière, là, le voyeur? Il l'a fait. Là.
Monsieur Fogarty.
Oui.
Ben, ouais, on est loin de l'époque parce qu'on se faisait hacker puis ouvrait le lecteur CD à côté de nous autres.
Ouais.
Hey, Donald Trump voulait acheter le Groenland. Ça a l'air qu'il y a eu une conversation de 15 minutes avec la grand chef du Groenland, puis c'était pas une belle conversation. Non. Qu'est-ce qui se passe avec l'Arctique? Qu'est-ce qui se passe avec l'Antarctique? Là? Donald Trump, vas-tu vouloir avoir accès à ça aussi?
Ben, en fait, c'est ça la réflexion. Là, pourquoi le Canada puis le Groenland? Ben, Donald Trump, c'est un gars d'immobilier, location, location, location. Donc là, est-ce que c'est ça la réflexion? En fait, la question que je ne peux pas répondre, c'est es-tu capable de se rendre jusque-là dans sa réflexion stratégique? Sauf que le Grand Nord, c'est un gros terrain de jeu qui est inexploité en ce moment, puis ça fait longtemps qu'on s'en fout un peu du Grand Nord. On parle des fois des brise-glaces, puis là, c'est important, la dévie stratégie navale, puis tout ça, mais la souveraineté canadienne puis du Groenland, finalement, par rapport au Grand Nord, c'est vraiment critique comme enjeu à cause des réchauffements climatiques puis des changements climatiques, puis on s'estimera...
Les ressources, là.
Mais c'est ça, l'affaire, c'est que on s'estimera mille fois sur le fait que ça change tout ou ça change pas le climat. Force est d'admettre que c'est en eau libre, donc pas glacée, beaucoup plus longtemps qu'avant, dans le Grand Nord. Donc, le passage du Nord-Ouest, du Nord-Est, la route maritime nordique, je pense que ça s'appelle. Donc, cette voie de transport-là permet à beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises de sauver beaucoup de temps. Donc, ça, il y a un intérêt direct. Mais comme tu dis tantôt, les ressources naturelles, il y a 13 %, en tout cas, c'est une estimation, des ressources pétrolières non découvertes. Puis quand on dit non découvertes, c'est qu'on se doute que c'est là, mais on n'a pas investi encore pour aller vraiment investiguer. Puis 30 % des réserves gazières de la planète au complet dans le Grand Nord. Parce que là, on se rappelle toutes nos leçons de géographie du primaire. Là. L'Antarctique, donc en bas, ça c'est un continent avec de la glace. Puis l'Arctique, en haut, c'est juste un gros banc de neige. Puis là, ben, quand ça va fondre, ben là, tu vas avoir accès en eau libre sur l'ensemble du fond marin.
Mais l'Antarctique, ça appartient à personne.
Non, mais de plus en plus, c'est contesté, cette histoire-là, parce qu'il y a un traité international qui a été signé par je ne sais pas combien de pays qui dit, ben c'est à personne. C'est juste pour la recherche scientifique.
Je pense que c'est juste ça, c'est la Terra Nullius. Là. C'est le seul Terra Nullius qui reste. Là.
C'est ça.
Mais qui serait capable de conquérir le territoire si jamais il y avait à le conquérir? Tu sais, juste dans le Nord, nombreuses sont les années, et encore aujourd'hui, où il y a des avions de plein de pays, dont la Russie et la Chine et autres, qui circulent pour aller planter un drapeau, un peu comme le jeu Risk. Là. Une fois de temps en temps, ben, il y a un drapeau russe, une fois de temps en temps, il y aurait un drapeau chinois, une fois de temps en temps, il y a un drapeau des États-Unis, une fois de temps en temps, c'est le nôtre. Puis on commençait, nous, à le protéger avec 2-3 personnes issues du Grand Nord qui s'assoient sur des roches qu'on appelle des Rangers du Nord, là, puis qui attendent avec une carabine si jamais on se fait envahir. C'est particulier. Ouais. On commence à développer, puis l'année passée, j'étais allée faire un petit tour avec les Forces armées canadiennes. Là, dans leur façon de s'entraîner pour ces missions-là. Mais on commence à s'entraîner de façon très régulière pour aller dans le Nord, pour apprendre à être bien dans les conditions climatiques. Mais quand tu regardes notre base, nous, d'armée, sur le territoire qui nous appartient, c'est dans une décrépitude totale, tandis que celle des États-Unis, celle des Russes, elle est dans un... Je veux dire, ça a été entretenu, monté dans une modernité extraordinaire. On fait tiers-monde sur notre propre territoire. Là.
C'est un risque parce que, tu sais, si on regarde la Chine là, par rapport à la mer de Chine, ils ont créé de toutes pièces des îles pour avoir une revendication territoriale. Donc là, un matin, ils se lèvent,
ça a pas de sens,
ils dompent du sable dans l'océan puis ils font une île avec ça.
C'est chez
là,
nous.
C'est ça. Ils disent c'est chez nous ici. Puis là, je le conteste. Puis là, les traités internationaux, je n'ai rien à battre parce que moi, j'ai une île là avec une base militaire puis c'est chez nous.
Fait que même si vous pensez que c'est votre eau, maintenant, il y a une île, c'est à nous.
Puis là, tu es dans une situation où ce que c'est un peu comme au bar, là, parce que le gars il te pousse puis te dit hein, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, toi? Ça m'est jamais arrivé, je me suis jamais battu dans ma vie, mais j'en ai entendu parler. Mais tout ça pour dire que dans la mer de Chine, c'est pareil. La Chine crée une île, puis elle dit What you gonna do about it? Mais en chinois, je sais pas comment ça se dit, là, mais fais la même affaire dans le Grand Nord. Là, t'as la Russie, t'as Poutine qui envoie sa gang, puis là, ils mettent une base militaire, puis ils disent c'est chez nous ici. Puis là, tu te dis ben non, c'est pas chez vous, c'est chez nous, check la carte, puis tout. Je m'en sacre de ta carte, c'est chez nous. Là, tu fais quoi?
Regarde ce qu'on a créé, regarde ce qu'on a monté, parce qu'on a eu
tu
l'opportunité
vas avoir
de le faire.
Les Américains.
Ben oui, mais là, c'est tout le temps une question de contestation. C'est, comme la...
c'est pour ça qu'il faut devenir le 51e État.
Oh.
Bon, on a fait le cercle au complet.
Oui, on revient à l'abrutissement de la population, quoi. Mais honnêtement, en plus, qu'est-ce qu'on trouve dans le Nord? Ben, c'est une richesse en eau. Puis je veux dire ça, il faut quand même l'aborder. Là. On le dit tranquillement, pas vite, on commence à en parler. Moi, ça fait 10 ans, j'ai l'impression que je veux parler de ça à radio, mais c'est vrai que c'est pas le sujet le plus sexy. Là. Je pourrais vous parler de... OnlyFans, vous allez m'écouter 100 fois plus. Mais tout ce qui est à propos de l'eau est super intéressant. C'est notre richesse à nous, puis c'en est une qu'il faut défendre. Qu'un homme d'affaires du Québec soit capable d'acheter pour 8 millions de dollars des gallons d'eau renouvelable à vie, c'est à se poser des questions sur pourquoi on n'en prend pas plus soin en ce moment. Puis c'est ça la prochaine chicane dans le Nord. Mm-hmm. C'est ça. Puis c'est pour la survie. Pensez-y deux minutes, là.
J'ai le goût de défoncer un mur.
Yannick s'en bat les couilles.
Non, mais les ressources, tu sais, on avait Normand Voyer qui est un,
viens demain en passant.
Un prof de chimie à l'Université Laval qui disait à quel point tous les territoires qui sont inexplorés dans le Grand Nord du Québec, entre autres, là, tous les territoires qui sont inexplorés, il y a des plantes là, qu'on ne connaît pas encore qui vont servir aux médicaments de demain. Mm-hmm. Il y a une richesse là qui est juste incroyable, faudrait pas se le faire voler.
Mm-hmm. Il vient Normand Voyer demain en passant. Okay.
Mais c'est un vrai risque, pareil, parce que tu sais la Russie investit massivement pour redévelopper son Grand Nord à elle. Là, parce que dans le temps de l'URSS, ben, il était vraiment conscient de ça. Puis on était dans une dynamique que pour entrer en Amérique du Nord, ben, ça se fait par en haut, là, parce que bon, la projection de Mercador, puis on connaît toute la patente. Là, c'est par en haut que ça passait. Mais là, après ça...
Si les Russes tirent sur les Américains, c'est clair que ça passe au-dessus de notre tête.
Oui.
Mais les gens le savent pas.
Non. Fait que si un jour, vous voyez un missile qui passe vers le sud... Là,
savais-tu?
Ben...
Washington? Ça, mettons qu'ils veulent atteindre Washington, ça passe au-dessus
pourquoi,
de notre tête.
Pourquoi est-ce qu'on est aussi idiot
l'ai appris
au
le,
quotidien?
Genre 10 ans, je sais pas.
Faut pas qu'il manque de gaz au-dessus de Québec, hein, parce que tu sais, si le missile tombe, c'est plate un peu. Là.
Mais ils vont être interceptés. Là.
Sûrement.
Par qui? Parce que même quand on avait des genres de ballons à air chinois, c'était les États-Unis qui les interceptaient.
Non, mais on a le bouclier. Là. On a un bouclier avec les États-Unis. On a
avec le NORAD. Là.
Ça s'appelle le NORAD.
Jusqu'au moment où on coûte trop cher pour les États-Unis puis qu'ils ne nous défendront pas de la même manière, Yannick.
Oui, mais quand on va être américain, là, dans le 51e état.
Oh mon Dieu, yes, la vie va tellement être belle. J'ai hâte. Je suis sans sens, émoustillée par tout ça, là. Miam.
Et moi aussi. Elle dit miam.
Miam. J'ai hâte. Vive l'Amérique.
Voilà.
Vive.
C'est un ressenti, ça.
Oh, oui, c'est.
On va donner une grosse base militaire, finalement.
Jamais eu autant d'émotions positives de
mais
ma
actuellement,
vie.
Le Grand Nord canadien est patrouillé par les Rangers. Mm-hmm. Ce sont des Amérindiens. On leur a fourni un uniforme, on leur a fourni une motoneige, on leur a fourni une arme.
Un Lee Enfield en 303 qui date de la Deuxième Guerre mondiale.
C'est une 303.
Ouais. Yannick, c'est d'une épouvante.
Puis c'est eux qui patrouillent le Grand Nord. Ouais. Si jamais ils voient un sous-marin au grand loin.
Il appelle sur le CV.
En fait, là, leur seule possibilité de défendre en ce moment, c'est en étant présent. Ça compte, là. Ça compte dans balance. Là. Il y a une présence canadienne sur le territoire. Sauf que quand ça décide de contre-attaquer, admettons, de façon guerrière, il n'y a rien à faire.
T'sais, on a des brise-glaces la garde côtière qui passe là, puis il y en a 6 en construction en ce moment. Puis là, on va avoir des vrais brise-glaces polaires, là, arctiques, là, qui vont être corrects. Là. Mais... T'sais, on en a 18 au Canada au total. Là-dessus, il y en a 12 qui datent de genre 1948. Là, fait que ça vaut pas 2 cents. Puis la stratégie navale canadienne, c'est 100 milliards, notamment pour développer l'espèce de souveraineté arctique, là, si tu veux. Mais on est loin de la coupe aux lièvres, comme il dirait. Là. On est tout excité de dire qu'on va atteindre le 2% de dépenses militaires d'ici 2032. Là, c'est la générale Carignan qui nous a dit ça. Là. Fait que dans, j'allais dire 8 ans, 7 ans maintenant, là. On va être capable d'atteindre les objectifs qu'on aurait dû avoir depuis 1950.
Gardons espoir. Salut David Chabot, un gros merci.
Ouais, merci.
Nous autres, on s'arrête, 13h23, on s'en va en musique. Soldier et Jay Scott avec Grand Frère sur les ondes de Boulevard. À tous, un excellent lundi. J'ai bravé la
tempête. Pourriez-vous y demander qu'il lise ses courriels puis qu'il fasse ses concours, s'il vous plaît? La direction vous remercie. Marceau, ouais. Le midi.
13h26, vous êtes sur les ondes de Boulevard 101. Merci d'être là. Bon lundi. 88-971-101. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, il y a des sorties de route. Je regarde de la météo à l'extérieur. Il semble avoir de la poudrerie. C'est très nuageux. Il y a de la neige aussi au travers de tout ça. Des vents entre 50 et 80 km/h qui sont annoncés pour les prochaines heures. Donc, vous êtes nos yeux, nos oreilles. 418-971-101, ça fonctionne par texto. Jeff Fortin qui arrive en studio et Pascal qui voit Jeff et dit « Attends peu, j'ai quelque chose à dire. »
Oui, parce que j'attendais que tu finisses ton speech de nous informer au 89-7-1-101. Moi, je peux t'informer sur une chose, par exemple, sur l'autoroute 20 Est, c'est la fin de l'accès vers l'autoroute Robert-Cliche Nord, la voie de droite partiellement entravée, il y a une panne, mais le ministère des Transports est sur place, ça devrait se résorber assez rapidement.
La route Robert-Cliche,
c'est l'autoroute, où? L'autoroute Robert-Cliche Nord.
C'est où?
C'est l'autoroute 20 Est, fin de l'accès.
Lévis.
C'est à Lévis, l'autre bord des ponts.
Ah, ouais. Ouais. Okay. OK.
Tu viens d'en apprendre.
418-97. Ben, c'est parce que Robert Cliche, on a un beauceron aussi qui s'appelait Robert Cliche. Je ne me trompe pas, c'est un secteur de Saint-Joseph. C'est une grande vedette.
Je viens justement de voir un beauceron, grande vedette de Sainte-Marie-de-Beauce, Thomas Chabot.
Thomas Chabot,
ce matin.
Pour les sénateurs d'Ottawa. Hey, on va juste parler du football avant.
Ben
là,
oui.
Parce que j'ai l'impression qu'on a eu le Super Bowl hier soir.
Hey, c'était-tu bon comme match?
C'était tout un match de foot.
C'était
et
incroyable.
Encore une fois, les gens qui sont déçus que Casey soit sorti gagnant, ils voient une stratégie avec les arbitres.
Oui, tout le temps. Puis c'est ce qui est un peu tannant parce que les Chiefs de Kansas City ont joué un excellent match hier. Premièrement, offensivement, ils ont dérouté la défensive des Bills en faisant plein de petits jeux à des receveurs de passes rapides. On a vu tout le potentiel que Xavier Worthy, la recrue, va avoir dans ce match-là. Pat Mahomes a été fumé avec 2 touchés avec des courses au sol. Alors, c'est décevant de toujours entendre les gens dire « Ah, les arbitres », parce que les Chiefs de Kansas City, depuis le début de l'année, jouent de l'excellent football. Pareil pour les Eagles qui ont mené les Commanders. Puis, force est d'admettre que c'est les deux meilleures équipes à l'heure actuelle qui vont s'affronter au Super Bowl.
Ouais. Est-ce que tu y crois, toi, que les arbitres avaient une préférence pour Casey? Hein?
Non, moi, je crois pas à ça. C'est impossible.
Parce que sur le jeu, sérieux, même tu le regardes au ralenti,
ouais.
C'est pas évident.
Ben,
il y en a qui ont sorti des photos, là, puis ils disent, regardez, la ligne est là, puis techniquement, on aurait dû lui donner,
exactement.
On ne lui a pas donné.
Non, tu sais, honnêtement, non. De toute façon, c'était sorti avant le match, puis j'étais bien content que ça sorte. L'arbitre qui arbitrait en chef hier le match des Chiefs de Kansas City. En carrière, lorsqu'il avait arbitré les Chiefs de Kansas City, les Chiefs étaient 6 victoires contre 3 revers et il avait décerné aucune punition pour rudesse sur le corps arrière à Patrick Mahomes. Il n'en a pas décerné hier. Donc non, les arbitres n'ont pas de préférence. C'est un sport qui est joué dans les règles. C'est un sport qui est, comment je pourrais bien dire, c'est un sport qui n'a pas, pas de corruption. C'est un sport qui est droit. C'est un sport qui est très bien géré. Puis, écoute, les Chiefs gagnent parce que les Chiefs sont la meilleure équipe d'Atlanta.
Mais toute l'année, ils ont réussi à trouver des façons de gagner. Puis toute l'année, ils ont eu des difficultés des fois. Puis de voir que là, ils retournent encore au Super Bowl. Pat Mahomes qui va probablement battre tous les records de Tom Brady.
Ben, écoute, il est parti pour ça. T'sais, jamais dans l'histoire, on a vu une équipe faire gagner 3 Super Bowls consécutifs. C'est ce qu'attendent les Chiefs dans 2 semaines. Ça sera pas évident. Les Eagles ont joué un excellent match contre les Commanders hier. 7 touchés au sol. Ils ont vraiment contrôlé le ballon. Mais, tu sais, je veux dire, chapeau aux Chiefs. C'est tellement difficile de faire, puis là, je vais prendre un terme anglais, de faire la run une fois. Quand t'es rendu que t'as fait 3 fois de suite, c'est difficile mentalement, c'est difficile physiquement. Et les Chiefs, bon an, mal an, reviennent toujours avec des victoires dans des gros matchs.
Ça a été un gros match hier aussi en termes de pointage. Là, les Eagles qui affrontaient les Commanders, qui est une équipe Cendrillon. Là. Moi, j'aurais aimé que les Commanders se rendent jusqu'au bout. Je les trouvais tellement beaux tout au long de l'année. Je me suis dit, tiens, on a peut-être une chance contre les Eagles, mais les Eagles sont tellement puissants. Là.
Ah, les Eagles, c'est la ligne à l'attaque qui est impressionnante.
Le corps arrière est juste hallucinant.
Jalen Hurts est capable de courir, lancer le ballon avec précision hier. Saquon Barkley, encore une fois, commence le match avec une course au sol de 60 verges pour un toucher. C'est son 4e toucher de plus de 60 verges cette saison. 2e dans les séries. Donc, tout roule bien pour les Eagles. Je trouve que c'est une équipe qui est mieux nantie, plus aguerrie que 2 ans lorsqu'ils ont affronté les Chiefs au Super Bowl. Ça va être très intéressant comme match.
T'as-tu l'impression que ça va être plus serré? T'as-tu l'impression qu'on va avoir un aussi bon match qu'hier, par exemple, entre les Eagles et les Chiefs?
Ah, ça va être assurément serré. 2 ans au Super Bowl, ça s'est terminé avec un botté de placement à la fin du match pour les Chiefs de Kansas City. Donc, je m'attends encore à un match serré. Les Chiefs sont habitués. Les 3 Super Bowls qu'ils ont gagnés perdaient par 10 points dans le match et sont toujours revenus de l'arrière. Donc, les Chiefs sont habitués à cette grande scène-là. Les Eagles, je pense qu'ils ont une équipe très bien balancée justement pour bien, bien venir tenir tête aux Chiefs. Ça va être un match très, très, très serré.
All right. Sinon, les Canadiens qui jouaient en fin de semaine.
Ouais.
Écoute, ça a été une petite défaite crève-cœur en prolongation. On jouait contre les Devils New Jersey, qui a un mot du beau club.
Hey, mais as-tu le but de Jack Hughes en prolongation?
Ouais.
La vitesse des mains, le lancer qu'il a fait face à Dobesh en échappé, ça n'a juste pas de bon sens. Dobesh n'a même pas le temps de bouger. Côté bloqueur, c'est rempli de talent, Jack Hughes.
Donc, prochain match, c'est contre les Jets de Winnipeg.
Ouais.
C'est demain soir. Sinon, on parle des Sénateurs à Québec.
Ben oui, les Sénateurs ont annoncé 2 matchs à Québec, 2 matchs pré-saison, le 28 septembre, dimanche 28 septembre, 15h, contre les Devils du New Jersey, justement, qui est en visite au Centre Bell ce week-end. On veut faire de ce match-là un match familial avec l'heure, justement, de 15h. Et le mardi soir, 30 septembre, ce sera le Canadien de Montréal qui sera en visite au Centre Vidéotron pour affronter les Sénateurs. Michael Linderder, le propriétaire des Sénateurs, était tout sourire. Il veut développer le marché francophone avec les Sénateurs, puis il voit une belle opportunité là, en étant à Québec. C'était très drôle, il a déclaré. Il y a plein de gens dans mon âge, comme moi, qui ont vécu la rivalité canadien-nordique à Québec, qui prennent pas pour le Canadien parce qu'ils détestent encore, parce que c'est des partisans des Nordiques. Fait que venez, prenez pour les Sénateurs. J'ai trouvé ça bien sympathique.
Quand les Kings de Los Angeles sont venus, on a annoncé une subvention de 5 à 7 millions de dollars pour essayer de combler là, le manque à gagner, si jamais il y avait un manque à gagner. Là, finalement, il y en a qui ont été au Centre Vidéotron. Le Centre Vidéotron était plein, on a quand même casqué 5,6 millions de dollars. Veux-tu bien me dire, c'est quoi le truc des Sénateurs pour s'amener à Québec puis pas charger une scène?
Pas de subvention cette fois-là. C'est fort simple. Le propriétaire, il dit, je m'en fous, moi, de perdre un peu d'argent avec ça. Je veux juste développer l'intérêt à Québec.
Mais comment ils peuvent perdre de l'argent si l'amphithéâtre est plein?
Ouais,
je comprends pas.
T'sais, honnêtement, il n'en perdra pas là, d'argent. Là. Mais tu sais, lui, il dit, j'ai pas besoin du gouvernement pour faire mes affaires.
Okay.
Je suis propriétaire d'une équipe de hockey. C'est pour le plaisir. J'aime être propriétaire des Sénateurs d'Ottawa. J'ai le goût de venir à Québec.
Je comprends tout ça. Il n'y a pas besoin de notre argent. Je l'aime déjà, OK? Mais le 5,6 qu'on a donné à Québécois,
ouais.
5,6 millions qu'on a donné à Québécois pour casquer
ouais.
le manque à gagner, il est où?
Il a servi à quoi, ça?
Il a servi à quoi?
Ouais, ça, c'est une bonne question. J'en sais pas plus
parce
que
qu'on
toi.
On nous parle d'entente
secrète
parce que c'est une entreprise privée et tout ça, mais c'est parce que c'est l'argent du gouvernement
qu'on a donné.
Là.
Normalement, on devrait savoir.
comme question?
Non, ça n'a pas été posé comme question au point de presse. Ça avait été posé, par contre, dans le, lorsque les Kings étaient venus au mois d'octobre, je me souviens. Puis la réponse est toujours, ben, on a une entreprise privée, c'est un contrat. Luc Robitaille avait alors décrit son organisation comme, comme un chanteur populaire qui vient à Québec puis qui demande un cachet. Ben, les Kings avaient demandé un cachet pour venir à Québec, ce que les Sénateurs n'ont pas fait.
C'est une bonne nouvelle. Tu penses que ça va être plein?
Ben, si je pense que ça va être plein, moi, je pense qu'il va y avoir encore un engouement, c'est certain. Surtout pour, avec le match contre le Canadien. Je trouve ça, je trouve que c'est une très bonne affaire de mettre un match à 15h, justement, dimanche après-midi pour les familles. Tu sais, les billets vont être encore une fois entre 50$ et 110$ le billet, dépendamment où vous êtes assis dans le centre Vidéotron. Si on a mis 17 000 personnes pour les Kings, je vois pas pourquoi on ne mettra pas un 15, 16, 17, 18 000 pour les Sénateurs.
On est capable de le faire. Écoute, juste ben avec une équipe d'hockey junior qui est en reconstruction, là. Puis crée-moi, j'y étais vendredi, puis on le voit, puis on le sent.
Oui, mon père m'en a parlé.
Tu sais, première période, deuxième période. Là. Tu sais, Patrick Roy, on a beau des fois dire « Ah, mais il est trop intense », mais c'était le cœur de l'organisation. Oui. Il y avait de l'émotion. Les gars savaient que le coach était là, puis il les surveillait, qu'il a joué dans le gros show, qu'il savait ce que ça prenait pour jouer dans le gros show. Puis quand il motivait ses joueurs, les joueurs, ils écoutaient Patrick Roy. Là, sérieux, là, les passes sont pas toujours sur la palette.
Ah, c'est flat.
C'est mou, c'est des demi-mises en échec, c'est la peur de recevoir une rondelle. C'est, tu sais, le fameux « il ne paye pas le prix » quand il tapait sur la table. « Il ne paye pas le prix! » Ben, vendredi, j'entendais ça dans ma tête. Mon gars, lui, il trippe, là, parce que je veux dire, l'ambiance au Rempart de Québec est incroyable. L'équipe d'animation, c'est incroyable. Ouais. DJ Dan qui est là avec ses paillettes et tout ça, c'est juste complètement fou. Mais sérieux, si ça n'avait pas été de la troisième période, je pense que j'aurais été demander un remboursement.
Ben,
parce qu'en troisième période, là, un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « Les gars, vous êtes des joueurs de hockey, puis le but d'une partie de hockey, c'est de l'emporter sur l'autre équipe. »
C'est ça. C'est que t'es tout autour des Remparts et professionnels. T'en parlais, le DJ, l'animation, la centre Vidéotron. T'es, tout est professionnel. Malheureusement, sur la patinoire, depuis 2 ans, c'est beaucoup plus difficile. Je sais qu'on est dans un processus de reconstruction après l'année de la Coupe Memorial.
Ouais. Là, il y a de l'espoir. Là. Mercredi, Dagenais revient. Là.
Ouais, exactement. Ça, c'est un bon joueur offensif. Ça peut justement redonner un souffle au Rempart. Mais moi, tu sais, ce que j'aimais de Patrick Roy, au-delà du fait que c'est un gars intense qui demandait de l'intensité, c'est un coach qui coach très offensif. Ce que je vois pas cette année des Remparts. On est plus dans un système où on essaye justement de se défendre. J'aime moins ça.
Ah, c'est la vie. Un gros merci, Jeff.
Fait plaisir. Bon retour de vacances, mon ami.
T'es-tu dans le... C'était pas des vacances. Mais en fait, c'était des vraies vacances.
C'était des vraies vacances. T'as rien fait.
Je me suis juste reposé.
T'as vraiment rien fait.
Je me suis occupé de mes gars, par exemple.
Excellent.
Ouais, pour ce qui restait à s'occuper, les lunchs étaient faits, les habits étaient choisis, ouais. Il allait à l'école.
J'ai pas dit que j'avais gardé mes gars.
Ben là,
j'ai dit que je me suis occupé de mes
gars. Oui, ça, un père, on ne garde pas.
OK, parce qu'une femme avec ses enfants garde ses enfants quand elle fait à souper, quand elle fait les devoirs, quand elle fait.
Non, jamais ça. Mais moi, j'entends ça au hockey des fois. Là. Ah non, mais je peux pas jouer vendredi, là, je garde mes enfants. Non, non, man, t'as peur. C'est ça.
Mais je pense pas que c'est méchant.
Moi, il y a.
Mais c'est parce que t'as rien eu à faire.
Il y a une personne dans ma vie qui me dit ah, t'es de garde à soir? Non, 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 c'est mes enfants, je m'en occupe. On va enlever le mot garde.
Non, mais t'as pas compris, Jeff. Il n'y avait pas les kits à choisir, ils étaient déjà faits. La nourriture était toute faite. Les lunchs étaient faits d'avance. Sur la nourriture, il était écrit à combien à mettre dans le four.
Oui, mais c'est vraiment occupé les enfants.
Exact.
Je suis fier de toi, Yannick.
Ça prenait quelqu'un pour dormir.
Y a-t-il quelqu'un qui peut comprendre?
Je suis fier de toi, Yannick.
Ils sont deux.
C'est un beau progrès.
Je pense que Pascal est un peu jalouse.
De
tout l'encadrement que j'ai. J'aimerais avoir autant
d'encadrement. Non, je suis paniquée. Ouais. Je suis paniquée, Yannick. S'il y a une apocalypse, tu meurs.
Moi, un T-shirt blanc avec des jeans.
C'est parfait.
Pour mon petit gars, c'est correct.
Oui.
Mais sa mère, elle trouve ça trop simple. J'ai dit, tu sais quoi? Tu trouves ça trop simple? Donc, dis-moi chaque jour comment tu veux que tes gars s'habillent à l'école.
C'est ça.
Puis le repas.
Fait les kits lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi.
Parce que tu leur as servi de la pizza, mettons, avec des frites toute la semaine. Fait qu'elle voulait être sûre qu'ils mangent bien pour les repas tout fait.
Non, non.
Puis les lunchs.
C'est juste qu'elle trouve que je suis un bon père. Puis elle veut me remercier pour pas que je me casse la tête.
C'est ça.
Mon Dieu.
Félicitations, Yannick.
J'ai tellement bien mangé, je pense que j'ai engraissé de 15 ans. Salut. Merci.
Salut.
On revient.
Midi avec Marceau et Pascal CV.
All right, il se passe des belles choses sur nos ondes. Je vais vous en parler dans à peu près une trentaine de secondes, les amis. Mais juste avant, c'est moins 3 degrés sur Québec. On parle de veille de bourrasque de neige, mais je pense que c'est déjà commencé à certains endroits. Vous pouvez nous en faire part au 88 971 1021, 88 971 1021. Poudrerie, 50 à 80 km/h les vents cet après-midi, c'est ce qu'on nous mentionne, maximum de moins de 2 degrés. Ce soir, cette nuit, des vents entre 50 et 80 km/h qui vont se continuer. Encore là, il y aurait de la neige minimum de moins 12. Et demain, mardi, neige intermittente, 500 en matinée, un ciel dégagé par la suite et des températures stables à près de moins 13. Mais avec le refroidissement éolien, on parle d'une température ressentie de moins 23 degrés.
On a un événement ici à soir, puis moi, sur ma route, il y a où Max la Rouche habite. Fait que j'ai dit, vite, j'ai été chercher avant l'événement, puis je peux être conduire aussi, il n'y a pas de problème. Puis il me dit, ah oh, non, ma petite marche va me faire du bien.
Il a dit ça?
Je pense qu'il va changer d'avis dans ouais, tôt.
Ça se peut qu'il regrette.
Les bourrasques, les vents. Oh, j'ai hâte de le voir arriver.
Ouais, hey, il se passe des belles choses sur nos ondes. Les ailes de poulet sont achetées puis les chums sont bookés. J'espère que c'est déjà fait, Pascal, pour le Super Bowl.
Pas d'ailes de... Hey, c'est pas moi qui reçois cette année.
Non?
Je me fais recevoir.
Tu vas où?
Au Saguenay.
Tabarouette, c'est pas la porte d'à côté.
Non, c'est pas la porte d'à côté, mais ça va être bien le fun.
On parle de la plus grosse game de foot de l'année qui est à nos portes et Boulevard va faire un touchdown dans ton salon pour pimper ta maison en terrain de jeu. On est allé repêcher Stereo Plus Audio Light pour vous offrir 3250$ d'électronique. La nouvelle télé Samsung 65 pouces qui vient de sortir cet automne. Une barre de son ultra mince Samsung avec le sub qui vont livrer direct chez vous le samedi juste avant l'événement pour te faire vivre la frénésie digne des plus grand stade. Pour participer, on te dit à chaque jour ce qu'on ajouterait dans notre salon de rêve pour aller... Puis ensuite, ben, vous allez noter ça au blvd.fm. Et aujourd'hui, on a débuté la semaine avec Jeff qui a choisi la fameuse barre de son pour vivre l'ambiance du stade dans son salon. Donc, vous allez inscrire une barre de son. C'est sur blvd.fm. Plus vous nous écoutez, plus vous avez de chances de gagner. Donc, TV Samsung 65 pouces avec barre de son sub offert par Stereo Plus et Audio Light. Valeur de 3250$.
C'est bon à l'année, ça, après, là, tes films ici et ça. Là, je veux dire, moi, c'est un concours, je pense, dans mon top 3 à Boulevard.
Oui, ouais, peut-être, oui. Pis
vraiment.
Quand tu t'habitues à ces grosses télés-là, t'es plus capable de revenir aux petites.
C'est très difficile, mais surtout au son. Moi, c'est au son que je suis plus capable de downgrader.
Ah ouais.
Quand t'as une bonne barre de son, là, après avoir juste le son de ta télé ou d'en avoir eu un moyen, tu l'entends toute ta vie. Tu peux pas revenir en arrière.
Ouais. Je voulais mettre un genre de gros sub en bas dans la cave. Après ça, je me suis dit, mes gars jouent régulièrement aux jeux vidéo.
Ah, ça va te tanner.
C'est sûr que ça va te tanner. Ah, la maison ouais. brasse au complet. Fait ouais. que c'est le fun quand t'écoutes un film, là. Parce que ça brasse.
Tu te sens dedans.
Ben, ça brasse.
Parce que tu regardes.
Ben, ça brasse. Mais quand c'est stupide. Les autres, tu sais, là, de Stinset, c'est mes gars qui écoutent leur YouTuber marocain.
Ah, ça te tente pas d'avoir le sub, je pense.
Tu sais, entendre un wesh avec le sub. Wesh, papa. Wesh,
mais
papa.
Tu peux le désactiver si jamais.
J'ai la flemme, papa, avec le sub.
La flemme.
Je suis plus capable. Je suis plus capable. Non, mais prépare-toi, là, tu vas en apprendre du vocabulaire marocain. Là.
Ah oui, pour
avec tes
quelle
enfants
raison?
Qui vont des YouTubers.
On va être rendu ailleurs. D'après moi, ça va être une autre affaire, par exemple.
Ouais.
Là, le temps que j'en ai, des enfants.
J'essaie de leur faire écouter des YouTubers américains.
OK.
Ils aiment bien Mr. Big.
Ouais, OK.
Après ça, l'autre qui a fait l'Everest, là.
Oui.
Pas si tu
oui,
le connais,
oui, lui, je l'aime. Il fait full
aussi.
D'aventures.
Ouais. C'est positif.
Oui, puis il essaie d'amener les gens dehors au lieu de regarder des... Je sais que c'est ironique, mais quand même.
Mais les wesh papa, là.
Oui, c'était plus capable.
J'ai la flemme, papa.
Moi, j'ai un problème. Ah, non, il n'y a plus le temps. Désolé.
J'ai plus le temps. Ah, t'avais un problème?
Oui, mais j'ai plus, le temps. C'est ça.
Fait que je te souhaite de passer une belle fin de journée. Denis s'en vient avec Véro et Audrey. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir, 18h, avec nul autre que Maître Marc Bellemare. Je vous salue. Les colocs, bon lieu sur Boulevard.